Bonjour tout le monde, ici Félix Bernier au microphone. Bienvenue à un épisode du mot magique.
Let's get ready to rumble!
Bonjour tout le monde, bienvenue à la seule émission où il ne suffit que d'un seul mot pour susciter des discussions d'une heure ou plus, si affinité. Et donc, j'ai trois collaborateurs pimpants autour de moi, mais avant toute chose, on va dire le mot magique aujourd'hui, et c'est notre premier nom propre, je tiens à le dire, donc yes. À 1, 2, 3,
États-Unis!
Hulk Hogan, et voilà.
Fight for what's right, fight for your right.
Avec le meilleur solo de guitare, mais ça va être pour une prochaine fois. Donc, j'ai autour de moi trois beaux collaborateurs, mais avant, on va signaler l'absence de notre gourou, notre maître à penser, Gabriel, qui est parti pour d'autres cieux, a.k.a. travailler au Salon du Livre. Mais et c'est pour ça que, on espère que, si vous nous entendez, c'est que tout va bien. Mais si vous ne vous entendez pas, c'est à cause que Gabriel n'était pas là.
Ouais.
Donc, on a trois beaux collaborateurs avec nous, dont deux revenants. Premièrement, Claudie Marc. Ça va bien, Claudie Marc?
Salut, oui, ça va bien.
T'as dit oui?
Oui.
Yo, le yes.
Yes.
Bon, maintenant, je retrouve le bon vieux Claudie Marc que je connais. Sinon, j'ai Anthony. Salut, Anthony, ça va bien?
Salut, Félix.
Yes. Comment va ton visage?
Ah, oh, mon Dieu, mais mon Dieu, tu me prends des points. Je connais pas ce que tu me poses cette question-là.
Tu t'es entendu en plus la semaine passée. T'as entendu que Félix a mis ton extrait de
story? Ouais, le taquin, là.
Qu'est-ce qui se passait avec ton visage? J'ai pas compris.
Eh non, mais en plus, je me sens mal parce que vous avez comme dit « Ah, ben là, c'est pas drôle. » Mais en fait, c'est un extrait genre d'un gag des Picbois, ça, que j'ai comme juste, que j'ai repris. Fait que ça vient pas de moi, en plus,
c'est cette joke-là.
Ouais.
Mon beau visage, ouais.
Fait que c'est pour ça, je veux pas prendre de crédit pour ça.
Je tiens juste à dire que je voulais faire rejouer le son, mais j'ai oublié de le mettre. Donc, tu t'en sauves pour cette fois-ci.
On va avoir un extrait live, non? T'es capable de le refaire?
On le refait.
Ah, qu'est-ce qui est arrivé? À mon beau visage! Mon visage!
L'école dramatique. L'école de théâtre.
Oui.
Laurence!
Ben ça moi, va je bien? Suis une revenante. Tout le temps là.
Oui, tout le temps là. Fidèle au poste, prêt au combat.
Chez
ouais.
vous.
Les chums, c'est fait pour ça.
On est trop fiers, les boys. Les
boys.
Et les girls, parce que là, c'est 50-50, c'est paritaire.
Oui, je vais faire un film bientôt, ça va s'appeler Les Girls.
Ah, ben il y a déjà eu.
Les chums de filles, puis il va y avoir Marie-Chantal Toupin.
Ah, nice. Ben, c'est une bonne idée, mais ça a déjà été fait par Clémence Desrochers dans les années 70.
Ça s'appelait-tu Les Girls?
Oui, exactement.
Oh là là.
Donc, sois original, s'il te plaît.
D'accord.
Et reviens-nous. Donc, on a choisi le mot États-Unis, notre premier nom propre, puisqu'on en parlait beaucoup autant cet automne que surtout dans la dernière semaine, puisque on publie c'est ça, le podcast le mardi. Mais mardi dernier, c'était les élections de mi-mandat. Mm-hmm. Donc, ça nous a beaucoup inspiré. Donc, on ne va pas nécessairement revenir détail par détail sur quel était comment ça fonctionne des élections de mi-mandat, mais je vais juste, ça va être un peu mon introduction pour expliquer « what the fuck is this ». Donc ça, c'est des élections traditionnellement tenues deux ans après chaque présidentielle, c'est mi-mandat, et voilà. Et ça, c'est pour, en fait, ça a toujours été un référendum non officiel sur la présidence du président en cours. Et là, cette fois-ci, c'était un référendum sur un petit taquin qu'on appelle Donald Trump, l'homme à la grosse cravate.
Oui.
Ah, c'est lui,
et petite
ça!
Main.
Ouais.
Main, grosse cravate.
Moi, j'allais dire petite autre chose, mais c'est trop explicite. Je veux pas qu'on devienne un podcast explicite.
Non, c'est pas grave. Tu peux le dire. Main.
Dis-le, Félix. On est
main.
Prêt.
Main.
Oh. Et voilà. J'ai du courage à faire ça maintenant. Et en fait, l'élection, c'était pour choisir des nouvelles têtes pour le Sénat et la Chambre des représentants. Mais, what the hell is this? Or is these?
Je comprends pas quand tu parles anglais, Félix.
Mon Dieu, ça va être long.
Repartez à toune de ses repattes, là.
Je l'ai pas, excuse-moi. Donc, en fait, le congrès, je le savais un peu, mais là, j'ai fait recherche profonde pour en savoir les aboutissements de tous et chacun. Donc, le Congrès, ça, c'est la bâtisse à Washington avec le gros dôme en pierre blanche, a deux gangs. Le Sénat, la Chambre des représentants. Donc, c'était ça l'enjeu des élections. On choisissait autant des représentants pour le Sénat, la Chambre des représentants. Et là, je vous pose la question. Est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre ces deux organes?
Quoi, je pense peut-être c'est comme au Canada, les représentants sont un peu les députés qui proposent des lois, puis après, ils sont passés en deuxième revue au Sénat. C'est ça?
En fait, c'est un peu la séparation des pouvoirs.
OK.
Anthony?
Ben, Claude Dumas, il est pas loin, il me semble. Il est pas loin, ça.
On va y aller avec les deux. On va les différencier. Premièrement, le Sénat compte 100 élus. Et il incombe au Sénat de voter des lois, ratifier des accords commerciaux, autres traités internationaux, d'approuver les nominations faites par le président, etc. Et une chose qui est intéressante, c'est qu'à chaque élection, parce que aussi, il y en a qui sont choisis pendant les élections présidentielles, puisque c'est pas juste le président qui est élu là, c'est 33 sièges à la fois, et il y en a 100. Donc, les Républicains ont gagné le Sénat, mais c'était des gains qu'ils ont déjà fait dans le passé. C'était pas nécessairement des nouveaux gains. Ils ont seulement gagné 4 nouveaux sénateurs républicains. Ouais. Donc, c'est pour ça, 3 sièges à la fois, alors que la Chambre des représentants, c'est les 435 d'un coup qui sont élus aux élections de mi-mandat. Et c'est les démocrates qui ont gagné celle-ci. La Chambre des représentants a notamment le pouvoir de voter le budget et aussi de mener des procédures judiciaires. Et il y a peut-être quelqu'un qui serait pas content de ça. Yes. On s'entend que Donald doit pas être content, mais je trouve ça spécial, puisqu'à la fin de ces élections-là, de mi-mandat, je trouvais que c'est la seule élection de l'histoire de la Terre que tout le monde était content. Les démocrates étaient contents, ils ont fait des gains dans la Chambre des représentants. Les républicains étaient contents d'avoir conservé le Sénat. Donc pour moi, c'était comme dans le temps quand il y avait des matchs nuls au hockey. Alors on est... Ben, c'est ça. Oh, on a fait des gains.
Tout le monde va prendre une crème à la glace et sont contents.
Ben, les machines au hockey, tout le monde était déçu, je pense. Plus que tout le monde était content.
Oui, ben, la foule évidemment. Mais moi, je pense je parle des équipes. Les équipes, genre, on a un point de chaque côté, tout va bien, tout le monde est heureux.
Moi, je ne suis pas sûr que c'est comme ça qu'ils pensaient, mais bon, en tout cas, continue.
Oh, ça, c'est un autre débat. On va faire ça dans le hors-série, un 110%. Les Républicains ont perdu une trentaine de sièges à la Chambre des représentants, mais en ont gagné 4 au Sénat. Donc, on pourrait dire que c'est une mini-vague démocrate. Petite, petite, petite. Donc, c'est...
Une vaguelette.
Une vaguelette. Et voilà. Ça a été une élection marquante du côté des femmes, puisque 95 d'entre elles ont gagné leur pari à la Chambre des représentants. Donc, elles ont battu le record de 85 femmes élues en 1992. On a... notamment vu pour une première fois 2 femmes musulmanes être élues au Congrès. C'est du camp démocrate.
Démocrate, ouais.
Donc, c'était une grande première.
Yes.
Ben oui.
Je pense aussi qu'il y a eu 2 autochtones, on pourrait dire, natives.
Oui, exactement.
Ça fait combien de femmes en tout élues, c'est sûr?
95 à la Chambre des représentants.
Mon Dieu, ça va être pick and span là-bas, mon Dieu.
Les toilettes vont être occupées.
Ouais, ça va être
propre. Bienvenue en 1995.
Yeah, m'ennuie de vous, les boys. Yeah, NWO for life. Référence. Donc, on parle des États-Unis. C'est un très grand pays. C'est la plus grande puissance mondiale, quoi que disent les Chinois. C'est un pays qui a influencé beaucoup dans la culture internationale, mais on peut s'entendre que c'est un pays un petit peu spécial, où il y a pas mal parfois des dingos, si je peux me permettre. Et Claude Dumarc, tu vas nous parler un peu de cette facette-là du pays. Fait que comme ça, ils sont fuckés?
Yeah, ils sont pas mal fuckés, les Américains pour vrai. Je vais vous parler des conspirations américaines pour vrai, parce que c'est un... un petit peu un backstory. Depuis que je suis très jeune, j'adore le monde des conspirations, des paranormales, un peu tout des trucs bizarres comme ça. Puis j'ai été vraiment chanceux qu'au Québec, on a un Christian Robert Page.
Oui, il faisait la chronique à l'émission du Trizac.
Oui, ouais, ça, il y avait encore le vendredi après-midi. Puis,
avec l'émission de... C'est Bernard Drainville maintenant? Ouais, OK. Puis il y a une émission à... Z ou à Canal, oui. À Canal D, je pense, si je ne me trompe pas.
Moi, j'ai connu à l'époque, à Canal D, quand, des années 90, dans Back in the Days. Puis, sincèrement, une des raisons que je suis content de l'avoir connu, ce gars-là, c'est que lui, il est plus sceptique que croyant. Genre, il montre des histoires, puis il montre tout le temps le côté, non, OK, c'est sûrement... c'est pas vrai, c'est pas des fantômes, c'est le mur qui craque. Là.
Mais je connais, honnêtement, je le connais pas, c'est la première fois que j'entends son nom, ça trahit peut-être nos âges respectifs. Mais est-ce que lui, il est pro-conspiration, anti-conspiration?
Il est souvent plus anti.
Fait que ça l'intéresse, c'est un phénomène qui l'intéresse, c'est un spécialiste. Mais il peut décortiquer la chose.
Ok, parfait.
Okay. Il va tout le temps plus du côté rationnel.
Okay. Parfait.
Mais en même temps, une des raisons pourquoi il s'intéresse à ça, c'est qu'il pense avoir vu un phénomène que peut-être il a été enlevé par des extraterrestres, mais lui-même se dit, ah, sûrement, j'ai eu un épisode de... Comment on appelle ça? Quand on dort, mais pas à 100%.
Un rêve éveillé?
Un rêve éveillé. Lui, il pense qu'il a sûrement eu ça, mais il a eu comme un accident en auto, si je me rappelle bien, peut-être je fucked up toute son affaire, mais qui dans son rêve, il était dans le champ, puis il s'est fait transporter par des extraterrestres, mais lui-même dit ça n'a pas d'allure, c'est sûrement un rêve éveillé ou que peut-être je me suis planté puis
mais il a vraiment eu un accident d'auto.
Ouais ouais.
Okay.
Mais lui, il sait lui-même que c'est sûrement pas des extraterrestres. Donc c'est lui qui, pour vous donner un peu l'image, c'est lui qui m'a amené dans le monde du paranormal et qui m'a fait remarquez que beaucoup dans beaucoup d'histoires paranormales ou conspirations, ça se passe souvent aux États-Unis.
Ouais.
Parce que, je sais pas, à cause des chemtrails, sûrement.
Mm-hmm. Ben oui, c'est ça.
C'est sûrement à cause de ça.
Ils sont tous intoxiqués, là.
Oui, c'est ça. Les avions pitchent des affaires dans le ciel, oui. Puis qu'ils deviennent fous.
Conspiration Land.
Yes! Puis j'ai décidé de vous trouver les meilleures conspirations que je trouve aussi les plus réalistes ou celles qui ont des vrais fondements. Je vais commencer avec le MK Ultra. Le projet MK Ultra, ça c'est un projet de la CIA que ça a été déclassé, genre ça a été mis au jour.
Révélé.
Ça a été mis au jour que c'est vrai. Puis le but premier de ce programme-là, c'était de regarder si on pouvait, avec la drogue ou les drogues comme le LSD ou la mescaline, si on pouvait utiliser ça pour l'or d'interrogatoire.
Hein?
Oui. Mm-hmm. Il voulait tester si, en droguant du monde, s'il allait dire la vérité ou se révéler.
Il voulait créer un sérum de vérité.
Ouais,
il cherchait la recette pour un sérum de vérité.
Un sérum.
Oui, ouais. C'est ça.
Ah.
Puis ça a été... puis aussi, c'est un peu dans le minding de torture, mais psychologique.
Mais parce que... Oui, vas-y.
Parce que souvent, ça s'est passé durant les années 53 jusqu'à 73, un bon 20 ans. Puis ça a été arrêté lors du scandale de Watergate parce que la CIA avait peur de se faire débusquer puis qu'on voit ça au grand jour. Mais ça a été débusqué à peu près 6 ans plus tard parce que un président a déclassifié les affaires. Et il y a aussi eu beaucoup de poursuites, comme vous allez voir.
Ben, ça serait plate si c'était d'usage commun. On pouvait acheter ça dans les supermarchés,
Le LSD.
Ça, le truc pour dire la vérité, parce que l'émission, les détecteurs de mensonges.
Ah, ça
n'aurait même pas existé, c'est plus l'art.
Non, mais ils veulent pas que ce soit. Ils voudraient pas que ce soit en vente libre, c'est pas ça l'affaire. Là.
Mais mettons dans un monde parallèle. Okay,
okay. Ouais, mais le Patrice Lécuyer, il peut se payer n'importe quoi, là aussi. Ouais. Là.
Il est riche à craquer.
J'avoue que ça ferait des émissions plus courtes.
On règle ça en 10 minutes. ma vérité la plus gênante, merci, bonsoir, bye.
Puis, c'est ça, les expériences consistaient à donner de la drogue, mais sans le dire aux patients. C'est vraiment chiant. T'amènes quelqu'un ici. Parce que souvent, y avait des expériences volontaires. Il y allait dans les universités, puis il proposait de l'argent à des étudiants pour participer à l'expérience. Mais il disait pas c'était quoi. Mais aussi, un des « fuck », on pourrait dire en parenthèse, c'est que ils ont fait des expériences sur des gens qu'ils ne savaient pas.
Oh, hey, moi, je ne mangerais pas leurs brownies à eux.
Fuck that, non. Puis en plus, quand ils donnaient du LSD aux gens, ils faisaient des techniques d'hypnose.
Ils mixaient les deux.
Ouais.
Wow. Imagine Harry Potter.
Mais imagine être sur l'hypnose sur le LSD.
C'est des mange-morts qui font ça, personne.
C'est tellement extrême.
Ça n'a aucun fucking sens. Puis ils ont même fait des expériences à Montréal. Ça, c'est vrai. Hein? Au Canada. À McGill. Ouais.
Ça a colline.
Ouais, non, c'est ça. C'est ce que je regardais en même temps. Là, puis j'avais lu aussi beaucoup sur MK Ultra. Ouais. Puis, tu sais, ils sont pas fous. Ils étaient comme beau pour faire ça aux États-Unis. Fait qu'ils ont fait ça à une grosse partie à Montréal, dans des cliniques à Côte-des-Neiges aussi, je pense, comme sur des patients qui venaient pour des
troubles de dépression.
Ouais, c'est ça. Anxiété. Puis ils ont dit, ah, ben, t'as essayé ça. Mais dans le fond, c'était des tests qu'ils faisaient sur ce monde-là sans que le monde le sache.
Ouais, c'est ça.
Ben, je vous annonce que la bombe atomique, là, à l'Université de Montréal, ça a été une grosse partie des recherches qui ont été faites à l'Université de Montréal. Little Boy, là, qui a été à Hiroshima. Montréal.
Ah, ouais.
Suite aux personnes qui ont pris du LSD.
Ben, ça,
on mélange tout.
Ça, vous saviez pas?
Pour... Ouais, ça me dit quelque chose.
Parce que ben, j'étudiais à l'Université de Montréal, puis ça, c'est comme... Pas que tout le monde en parle, là, mais mettons, dans nos cours, je pense que c'est assez connu. Ben, en fait, qu'il y a une partie du projet Manhattan qui a été faite à Montréal. Puis il y a même une plaque sur l'édifice pour dire que comme... mais eux savaient pas que c'était pour le... Pour la construction d'une bombe, c'était juste des recherches sur
les atomes.
Ouais, exactement.
Il y a personne qui nous dit quelque chose à nous. On fait tout.
Ils utilisent. Le gars, le docteur qui faisait les expérimentations à McGill, lui, il savait en crime. Il était payé à l'époque, c'est à peu près 70 000 par année.
Oh.
Pour maintenant, c'est genre 600 000 par année.
Ah oui.
Puis il y avait du financement. Puis lui, j'avoue, il était intense. Il y a eu des abus physiques, sexuels, sur les patients, sur tout. Il y a eu 127 personnes qui ont été victimes officielles et dédommagées par le Canada parce que le gouvernement le savait.
Ah, c'est pour vrai?
Ouais. Il y a une série sur CBC qui ont fait en anglais, Radio-Canada anglais.
Oh, OK. Je pensais que même le gouvernement canadien ne savait pas. C'était les Américains qui s'étaient comme... Non. Oh.
Il était in the game.
C'était dans quelles années encore, ça?
C'est entre 53 et 73. Fait qu'un bon 20 ans.
On était rendu jusqu'à Pierre Trudeau, là, qui était au courant. Et Boboy.
C'est vraiment intense. Puis ça, il y a même eu des personnalités connues qui ont fait partie du programme. Eux autres étaient plus volontaires. Il y a eu l'auteur américain Vol au-dessus d'un nid de coucou qui a participé. Lui, il avait jamais pris de drogue avant, jamais bu de bière.
C'est un nom?
C'est un hein?
C'est un nom, ça?
C'est un nom.
Répète le nom.
Non, c'est lui l'auteur. Non, c'est lui qui a fait le... C'est un livre à la base?
Le livre Vol au-dessus d'un
nid de coucou. Ah, OK. Je connais pas.
Tu connais pas?
Non.
Mais c'est Kenny quelque chose, je pense. En tout cas, j'ai pas noté
son
nom.
L'auteur du livre, je sais pas.
Ouais, en tout cas.
Moi, parlez-moi de l'ancien compte, mais pas du reste.
Mais ça, lui, il avait pas pris de drogue avant, pas pris d'alcool.
Ah ouais.
Puis il a pris ça, puis après. En plus, il était réserviste aux Olympiques. En lutte. En plus. En lutte.
Curling.
Yes. Puis c'est ça. Puis lui, après avoir pris le LSD du gouvernement, sa vie s'est ouverte. Dans une entrevue qui dit. Il a compris que tout le monde avait sa place dans le monde, sauf ça beau quand même. Genre, on n'a pas besoin d'être juste des baptistes, on peut être des chrétiens, on peut avoir des bouddhistes. C'est la mentalité
hippie.
Ouais, c'est ça, il y a un éveil avec ça. Puis ça, aussi.
Parenthèse, son nom c'est Ken Kesey.
Ouais, Ken, c'est ça, exactement. Puis il y a un autre membre que j'ai pas pris son nom en note, mais un membre du groupe musical Grateful Dead. Je sais pas si vous connaissez, c'est un groupe quand même hippie.
Mon Dieu, j'avais pas pensé.
Du temps des années 60.
Qui le cru.
Grateful Life, peut-être?
Ouais. Ben, c'est ça. Puis ils ont fait des gros succès. Puis c'est vraiment un très bon band. Les plus vieux vont peut-être connaître. Ou les amateurs du jeu Rock Band. Ils étaient dedans. Puis
ça existe encore, ça?
Ben, ça existe encore, mais personne ne joue.
OK.
OK. Puis c'est ça. Puis en plus, cette expérimentation-là, moi, je la trouve intense parce que.
Ben, 15 moments.
Ben ouais. Mais aussi parce qu'il y avait en sous-thème le désir de contrôler quelqu'un aussi physiquement avec mixer l'hypnose et les drogues fortes. Puis j'ai lu qu'il y avait des expériences, des études fucking intenses à Montréal, à McGill, qu'ils ont mis quelqu'un, ils mettaient du monde dans un coma provoqué.
Yo!
Puis pendant des mois, il faisait jouer soit des bruits ou une phrase répétée à nos
amis. C'était une forme d'hypnose.
Non, non, c'est
la torture, rendu là.
Moi, il voulait juste tester si, quand t'es dans le coma, tu peux te faire rentrer des messages en tête. Puis le monde qui sont sortis de là, il était juste mal à mental après. Puis c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de poursuites, avec raison. Puis c'est ça, fait que le MK Ultra, c'est une vraie histoire, vous pouvez aller voir sur Internet.
Les gens pensaient que c'était une conspiration, mais finalement, c'était vrai.
Ouais, mais ça, ben, ouais, mais dans le fond, à la base, une conspiration, il y a souvent un peu de vrai ou un peu de quelque chose de bizarre.
Ouais.
C'est que, tu sais, il y a des, comme un ton, ceux qui pensent que la Terre est plate, c'est pas une conspiration pour moi. C'est juste des crazy motherfuckers. Ok.
Qui se renseigne pas.
Ouais, qui se renseigne pas.
Qui croit pas la science.
Puis qui va sur YouTube, puis qui voit un gars.
Mais quand il y a une absence de preuves, peut-être que là, ou quand une absence, quand il manque un trou dans l'histoire, là, peut-être que les gens sont comme ha!
Ouais, c'est ça. Puis ça me fait penser, en faisant mes recherches, il y a eu une étude qui a eu lieu que les gens qui sont enclins à croire à beaucoup des grosses conspirations, n'importe quoi, un peu whatever, flat earth, ou des affaires vraiment qui n'ont pas d'allure, c'est des gens qui ont perdu le contrôle sur leur vie.
Okay.
Fait que pour se donner des raisons mentalement, ils disent ah, c'est le gouvernement. Ils mettent des caméras chez nous, ils me regardent.
Tu sais, mais ça, c'est comme les gens qui embarquent dans des sectes. Pis des,
oui, oui, exactement.
Ou intensément dans une religion que ça devient malsain. Ouais. Là. Ouais. C'est des gens qui ont besoin d'un guide, là, d'un repère.
Ouais. Ouais. D'un guide, d'un repère, d'une raison qui explique leurs conditions.
Ouais.
Fait que ça, c'est quand même assez intéressant. La prochaine conspiration est un peu, j'y crois pas dans ça, mais vous allez voir la raison que peut-être j'y crois. C'est l'incident de Roswell au Nouveau-Mexique. C'est en 1947 dans une ferme de Roswell, ou ben au nord, dans le fond. Il y a un fermier qui trouve des débris d'allure métallique sur à peu près 1 km de long, de distance. Puis il a décidé de montrer ça à des membres de sa famille. Puis eux autres, ils ont dit, on va montrer ça au shérif. On comprend pas c'est quoi cette affaire-là. Puis là, le shérif, lui, a dit, je comprends pas c'est quoi, c'est la première fois que je vois ça. On va aller voir la base militaire. Puis une des affaires qui me fait rire dans cette affaire-là, c'est que le premier communiqué de presse de l'armée, c'était « Nous avons trouvé des soucoupes volantes ». Ça,
ah ouais.
Officiel, là, dans le journal. Fait que le lendemain...
C'est vrai.
Real news, comme ils disent.
C'est ça. Puis ça a sorti le lendemain, puis là, c'est sûr, ça a créé quand même une commotion, parce que, tu sais, c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps, les soucoupes volantes. Mais
j'ouvrais ma presse plus, ça serait écrit « Il y a des soucoupes volantes ». Je suis comme « Mon Dieu, mon monde s'écrase
». Puis, mais c'est ça, le jour d'après, après qu'ils ont vu que « The shit hit the fan », on pourrait dire, l'armée s'est ravisée. Ils ont dit que c'était des débris de ballon-sonde. Finalement, c'est une autre affaire. C'était pas loin, c'était proche quand même. Puis ça a marché, sincèrement, qu'ils ont dit ça. Puis parce qu'on en a pu parler jusqu'en 1978, alors qu'un lieutenant-colonel de l'époque, J.C. Marcel, avec un nom québécois, un peu, a commencé à faire des entrevues.
C'est vrai, un nom de DJ, excusez.
J.C. Marcel. Ouais.
Mais lui, en 1978, il a commencé à faire des entrevues télé. Puis il a dit, ah non, ce qu'on a trouvé, c'était pas terrestre, c'était extraterrestre.
Ah.
Il a commencé à faire des entrevues là-dessus, puis là, ça a reparti l'histoire, parce que le monde n'en parlait plus depuis 30 ans.
Mais branchez-vous.
Ouais, c'est ça. Mais un des accrochages, c'est que dans ces histoires, dans ces les trucs qui parlaient de... Dans le fond, dans ces histoires
dans
du passé...
Faits, hein?
Ouais, dans ces faits, il y a eu tout le temps eu des petites... pas acronyme, mais ils ont on va dire faussetés. Parce que, par exemple, il dit qu'il était dans l'armée et qu'il y a eu 5 médailles d'honneur en arrêt hauteur, en tout cas. Air Force, parce qu'il est un pilote d'avion.
Uh-huh.
Puis dans le vrai fond, il y en a eu 2. Il dit qu'il était en 47, il était dans le coin de Roswell, mais dans les papiers, il n'est pas là. Fait que, tu sais, il y a des affaires...
C'est
des...
comme Giovanni Apollo, ça, là. Ouais. Marcel Giovanni.
Jean-Claude, hein?
Ouais, c'est ça.
C'est exactement ça. Fait que, tu sais, il y a des petites affaires, mais c'est pas des grosses menteries, mais il y en a un petit peu. Fait que c'est ça, ça ajoute du mal. Mais on pourrait dire, est-ce conspiration, c'est l'armée de l'air qui modifie les données? Mais peut-être pas non plus.
À suivre.
Fait, ouais, parce que la plus grosse... explication de ce crash-là, ça serait un ballon sonde qui était fait, dans le fond, pour espionner les Russes.
Oh!
Puis qui aurait crashé, mais ils ne voulaient pas que les Russes le savent. Fait qu'ils ont dit, c'est des soucoupes volantes.
Hey, j'imagine...
Les Russes ont fait de l'interférence dans la...
Ben... mais j'imagine le briefing, tu sais, ouais. Ils savent que le ballon, c'était pour identifier, pour espionner les Russes, mais là, ils se disent, qu'est-ce qu'il faut dire aux Américains pour pas leur dire ça, pour pas leur dire qu'on les espionne les Russes? Là, j'imagine le stagiaire, au fond, « Hey! soucoupes volantes. Je le sais, on va faire ça. Ils vont tout croire à ça. Pas bête.
Puis c'est quoi, le même gars a écrit le film Knowing plus tard aussi.
Ah, oh, c'est ça.
Tout est dans tout.
Puis il y a eu une expérience du LSD.
Ceux qui ont vu le film vont trouver drôle.
Moi, j'ai pas vu, j'ai rien compris.
Ah, c'est un film avec Nicolas Cage, puis ça finit que l'histoire, à la fin, c'est juste qu'il y a les aliens qui arrivent et qui prennent tout le monde. Oh. Mais ça n'a aucun rapport avec le reste du film.
Ah, oh, ouais.
C'est vrai.
C'est pas Signs? Non, mm-hmm. non, Signs, on les bat avec mm-hmm. de l'eau. Puis, dernier conspiration qui est quand même, on pourrait dire officielle, comme ça, ils les appellent même un peu, c'est l'assassinat de JFK.
Ah.
Quand même, ça, c'était vraiment, ça a starté les théories du complot à l'infini quasiment. On peut se rappeler, il est mort en 1963. Puis il y a même Donald Trump qui a embarqué dans la théorie
ah, oui?
en disant que c'était le père de Ted Cruz. Qui avait participé.
Mais non.
Ah, Lying Ted.
Oui, son père, selon Trump, son père a participé.
Mais ils sont dans le même parti.
Non, mais ça, c'est dans le temps des préliminaires. Pendant qu'il était. Non, des... non, ben. Non,
je veux dire. Marc, les primaires, pas les préliminaires.
Donald Trump qui dit quelque chose dans les préliminaires, ça doit pas être vraiment quelque chose qui se dit.
J'avoue, c'est que. En tout cas, dans le temps que les républicains se battaient entre eux, là, il a dit que Ted Cruz, son père, était possiblement dans le complot d'assassinat de JFK. Mais sincèrement, ça a été quand même intense. Ben, pas même ça. Oui. Un assassinat
intense,
en live TV. Puis que, tu sais, le principal suspect, Lee Harvey Oswald,
ouais.
qui s'est fait tuer
ouais.
dès qu'il est sorti du poste de police. Ouais. Par un Jack Ruby, qui était un propriétaire de club
ouais.
de danse. Puis Jack Ruby, plus tard, il a dit qu'il l'a tué pour redonner l'honneur à la ville de Dallas. Parce que...
Ah ouais?
Ouais, ouais.
Moi, la première version qu'il avait dit, c'était qu'il voulait venger Jackie Kennedy, qu'il connaissait pas, qu'il voulait paraître ouais, pour le t'sais, pour l'aimant de la démocratie. Ouais. Mais,
mais
quand on fouille, là...
mais sinon, il y aurait...
Non, c'est l'aimant de la démocratie, mais il n'y a rien avec Jackie, c'est juste genre...
Il voulait avoir des préliminaires. Ça...
mais non, ça a été Robert qui en a eu. Mais il voulait juste venger
ouais,
le
ça.
Pays, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de liens qui, ouais. sont, qui restent à vérifier. Et je sais pas si vous le savez, mais il est supposé, après genre 70 ans, 75 ans après ça, il est supposé avoir de nouvelles archives qui sont... disponible publiquement. Ouais. J'espère que ça va arriver un jour.
Ouais. Après un certain temps, ça devient déclassifié. Fait que
ouais.
C'est, ouais.
Parce que ça, la première enquête, elle disait qu'il y avait rien qu'un shooter, puis tout. Mais avec le temps, avec les témoins aussi qui étaient là,
ouais.
Les spécialistes pensent vraiment qu'il y a eu quatre balles.
Oui. Quatre tireurs?
Ah oui, oui.
Parce qu'ils disent, mettons, comme Harvey Oswald qui était dans le
ouais.
Book Depository.
Ouais. Ouais.
Puis probablement un en avant dans
ouais.
le Grassy Knoll,
ouais.
en arrière de
ouais,
la clôture.
Ouais.
Mais quatre, hein?
Ben au moins quatre
ça
shots au
ça
P.
Ça se peut.
Ah, quatre,
parce,
OK.
Parce que peut-être...
Quatre tirs.
Ouais, quatre tirs ou quatre personnes peut-être.
Parce qu'ils ont fait les tests en utilisant, pendant cette enquête-là, le tireur le plus rapide de l'armée américaine et il n'a pas été capable de tirer à la vitesse qu'on a pu enregistrer avec l'assassinat réel, parce qu'avec le film de Zapruder, c'est ça qui a donné beaucoup de clés à cette enquête-là.
Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas eu juste une blessure. Il y en a
ouais.
plusieurs. Il y en a, je pense qu'il s'est fait frapper
ouais.
derrière le cou jusqu'en avant, puis ça a blessé même
ouais.
une personne
parce
devant lui.
Ça, parce que le gun qu'il utilisait, c'était c'est comme one shot.
Ouais, exactement. Il fallait toujours recharger.
Puis c'est comme la vitesse de pour
ouais.
recharger à chaque fois, c'est trop rapide. Il aurait fallu qu'il soit comme un tireur expérimenté de l'armée, puis même là, c'est
mais
ouais.
surtout le film de Zapruder, on le voit bien, bon, c'est un peu trash, disons, mais on voit la tête de John F. Kennedy qui penche par en avant, donc on s'imagine que le coup vient en arrière, puis un peu plus tard, on voit sa tête rebondir vers l'arrière. Donc,
back
ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a tiré...
Back and to the left.
Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a tiré en face de lui.
Ouais. C'est vraiment... c'est normal qu'un événement comme ça start des conspirations. Puis en plus, JFK, c'était un des premiers présidents vedettes, on pourrait dire,
ouais.
qui était flamboyant puis fucking hot. Hein?
On peut en parler à Marilyn.
Yes. Puis, ouais, plus, Monroe.
On peut plus, excusez-moi. Je vis dans le passé.
Puis, il y a même CNN qui a parlé de théorie des complots avec un auteur historien, Dave Perry, cet été. Puis, pour lui, le seul groupe qui n'a pas réussi à clarifier, ou comment on dit ça en français, des punks, on dit...
À débusquer.
À blanchir. Okay. Parce que lui, il a vu... Il y a du monde qui parle que c'est sûrement la mafia. Lui, il a dit non, il n'y a pas assez de liens. Parce qu'il y avait des liens peut-être avec Jack Ruby. Mais ouais. Lui, il disait que ça se pouvait pas. Il y a du monde qui disait que c'était...
Cuba?
Ouais, c'est ça, Cuba. Lui, il disait non plus. Puis lui, le seul groupe qui n'a pas réussi à couper, c'est la CIA.
Ah.
Parce que JFK, il était frustré que la CIA voulait avait commencé des plans pour assassiner Fidel Castro.
Ah ouais.
Puis d'autres plans un peu machiavéliques. Puis je vous rappelle, ça s'est passé en 63, durant le temps
ouais.
de MK Ultra, qui parlait plus tard.
Ah, on fait des liens.
Je fais des liens moi-même. Fait que c'est ça, peut-être la CIA avait peur d'être démantelée ou d'avoir coupé des liens. Fait que lui... Cet auteur-là pense que ça serait la CIA.
Est-ce que tu parles de l'enquête de Jim Garrison?
Moi, c'est l'historien Dave Perry qui a trouvé ça.
Ah, oh, ok, ouais.
Écrit
okay. Monsieur Garrison.
Non, moi, j'en donne comme les trois théories principales. C'est la théorie de la commission Warren, qui est un seul shooter, ouais. The other one. La théorie de Jim Garrison, qui est autour justement du FBI, puis en fait c'est le film JFK de ouais. Oliver Stone, c'est le film sur la théorie de Jim Garrison. Puis la troisième c'était justement la mafia, justement. Mm-hmm. Comme je la connais un peu moins, je sais que
aussi, il y avait des histoires que JFK, sa famille, ses parents, ils étaient un peu dans le temps de la prohibition, je pense.
Ouais, puis je sais qu'il y a, comme il y a Frank Sinatra aussi qui est impliqué là-dedans d'une X manière, parce que ben non, non. Non, mais parce que Frank Sinatra était quand même assez proche de la mafia, ouais. Je pense là, fait que je trouve ça, en tout cas je peux pas m'avancer là-dessus plus que ça là, mais ouais.
Fait que c'était sûrement la CIA avec le MK Ultra puis le chandelier à Dallas.
Oui, merci Claudie Marc.
Yes.
Donc Anthony, malgré tout, il y a des gens qui veulent se joindre à ce beau pays.
Oui, ben oui.
Hey, excusez-moi, ça paraît qu'un Gab est pas là. Les Q sont pas là.
Non, mais ça, je sais pas si tu voulais que je réponde de quoi. Je veux dire, est-ce que tu mets mon thème ou je réponds de quoi?
Fait
que
c'est général avant les enregistrements.
Ben oui, c'est. Quand Gab est pas là, on perd nos repères. Là, c'est moi le maître du son. Donc, ben je m'adapte.
Ouais, en
Claude
fait,
Marc.
Oui,
Anthony.
Oui, Anthony, c'est ça. Ouais, dans le fond, je vous parle aujourd'hui. En fait, tu disais, il y a des gens qui veulent se joindre aux États-Unis. Et ben en fait, parce que là, présentement, les États-Unis ont combien d'États, en fait?
50. Savez?
Ouais, c'est ça, exactement.
Faut compter les étoiles dans le drapeau.
Question facile. Ouais, exactement, 50 États. Et je vous parle de quel endroit pourrait devenir éventuellement le 51e État des États-Unis. Ouais. Parce qu'il y en a qui le savent peut-être pas, mais les États-Unis ont quelques territoires qui sont pas des États, mais qui sont quand même peuplés d'Américains, qui payent les taxes comme tous les autres Américains, mais parce qu'ils sont pas dans des États à proprement parler, ils peuvent pas élire des membres du Congrès ou des sénateurs ou même voter pour les présidentielles. Ouais. Le premier, le plus connu, c'est Porto Rico.
Oui, ouais. Wow. L'ancienne ville des Expos.
Ouais, le San Juan.
Ouais, c'est vrai.
Hein. Ouais, qui est un territoire américain d'une population de 3,3 millions d'habitants, donc plus peuplé que l'Iowa, l'Utah, l'Arkansas, le Nevada et 17 autres États. La question de Porto Rico comme 51e État se pose fréquemment sur l'île. Il y a eu un référendum qui a lieu en 2012 sur le statut de Porto Rico, qui s'est soldé par une victoire à 61% pour devenir officiellement un État américain. Par contre, c'était pas considéré comme une majorité claire par le Congrès.
Donc, les fameuses majorités claires.
Ouais, parce que pour eux, 60... Parce qu'ils disaient que c'était pas assez, parce que, mettons, en incluant l'abstention, ça faisait qu'ils tombaient en bas du 50%.
Ouais. Puis, mais pourquoi ils veulent pas?
Ben, il y a différentes raisons.
Économique,
mais...
c'est clair.
Ouais, aussi, ouais, parce que je pourrais pas comme rentrer là-dedans. Là,
est-ce
mais
que Stéphane Dion les a conseillés?
Mais peut-être, on sait pas. Faudrait leur demander, faudrait aller les voir.
Blague de clarté référendaire, on dirait qu'on est en 98.
Ok, ben aussi j'en étais. Oui, ça. Fait que, donc, étant donné que c'était pas considéré comme une majorité claire, le Congrès a plus ou moins ignoré les résultats. Donc, en 2017, il y a eu un nouveau référendum. Cette fois-là, il y a eu 98% en faveur de rejoindre les États-Unis comme 51e État. Ouais. Par contre, le taux de participation cette fois-là était seulement de 23%.
Ah.
Ouais. Donc, parce que tous les gens qui s'opposaient sur l'île à intégrer les États-Unis, ben, ont boycotté le référendum. Carrément. Ouais. Ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a des gens au Congrès qui veulent pas, mais il y a aussi beaucoup de monde à Porto Rico qui veulent pas intégrer les États-Unis par souci d'être. Parce qu'ils veulent pas devenir un pays, mais ils pensent que s'ils sont trop annexés aux États-Unis, ils vont perdre leur identité particulière. Là. Fait qu'eux sont à l'aise avec le fait de rester comme un territoire séparé. Mais malgré tout, c'était boycotté par les opposants, mais malgré tout, en juin dernier, alors que l'île se remettait de l'ouragan Maria, il y a une loi qui a été déposée pour réclamer l'égalité entre Porto Rico et les 50 États. Et pour l'adhésion de Porto Rico à l'Union américaine pour janvier 2021. Donc, la loi a été appuyée par des députés autant du côté démocrate que républicain. Puis, dans le fond, ça vient d'être fait, ça a été fait cet été. Donc, les résultats vont s'en venir prochainement. Ça n'a pas encore été voté. Mais bon, si jamais ça passe, ça pourrait être un développement à ce niveau-là pour Porto Rico. Sinon, si on continue, il y a d'autres territoires aussi à part Porto Rico. On parle de Guam aussi, qui rentre dans la même catégorie.
Guam?
Ouais, qui est un autre territoire américain. Est-ce que tu connais pas Guam?
Non.
C'est une île où c'est plusieurs îles. En tout cas, c'est une île, en tout cas.
Les Expos, est-ce qu'ils ont déjà joué là?
Pas encore. Mais, ben là, ils seraient rendus trop tard, là, ils sont quand même partis. Mais non, c'est une île pas mal en plein milieu du Pacifique, encore plus loin qu'Hawaï.
Mais j'ai déjà entendu le mot, là, mais sans plus.
Je pense que c'est à mi-chemin entre Hawaï et le Japon.
OK.
Je pense.
Ils doivent avoir des belles
plages. Ouais, mettons, tu sais, comme Midway, dans ce cas-là, ça serait, on se rapproche, là. C'est un territoire américain qui pourrait éventuellement pousser pour devenir un État. Il existe un mouvement qui est présent depuis les années 80 pour permettre à Guam d'accéder de plus en plus, pour accéder à plus en plus de pouvoir. Et Guam est souvent mentionné à l'ONU comme étant est considéré comme une colonie américaine selon l'ONU. Donc l'ONU comme pousse les Américains pour leur dire de se délaisser de soit les libérer ou soit les intégrer complètement, mais comme un statut genre in limbo colonial, ça passe assez mal à l'ONU. Donc, il y a des demandes qui sont faites à ce niveau-là pour régler ça.
Mais là, ces endroits-là, est-ce qu'ils sont considérés puisqu'ils peuvent pas voter, mais ils ont la monnaie américaine?
Ouais.
Est-ce qu'on peut faire une comparaison avec les réserves autochtones ici? C'est bien, en ne comptant pas le fait qu'ils peuvent pas... Ils peuvent des taxes quand même, etc.
Mais la comparaison est plus proche avec les territoires outre-mer britanniques.
Mm-hmm.
Ouais. Comme les îles Caïmans ou Monserrat ou les Bermudes. Genre.
Okay.
C'est plus proche de ça en termes de...
Ils ont vraiment moins de contact avec les États-Unis que... Ben, parce que j'espère que les autochtones ici avec le Québec.
C'est un territoire américain, mais ça fait juste... C'est un peu comme les territoires canadiens, je dirais, parce que dans le fond, les trois territoires, c'est pas comme des provinces, mais qui ont beaucoup moins.
Ok, territoire du Nord-Ouest,
ils ont beaucoup moins d'indépendance pour ce qui se passe dans chez eux. Le gouvernement du Canada décide pas mal tout ce qui se passe là-bas. Puis eux décident genre des petites affaires.
Ok, l'autorité provinciale dans ces provinces-là est moins. Des territoires, donc, est moins importante. OK, je comprends.
Puis dans ces cas-là, particulièrement, ça part encore plus parce qu'ils sont vraiment éloignés de la métropole. Il y en a deux autres aussi que je voulais mentionner. C'était les Samoa américaines puis les îles Vierges des États-Unis.
Oh, Samoa!
Ouais, parce qu'il y a les Samoa qui est le pays. Puis juste à côté, la partie plus à l'est, c'est un territoire américain. Ouais. C'est les Samoa américains.
Roman Reigns.
Mais Roman Reigns, je pense, vient de... Sa famille vient des Samoa américaines.
Oh, ouais.
Ou des Samoa indépendantes.
Bon, là, c'est le moment de lutte, Laurence. C'est un des lutteurs justement, c'est un des lutteurs les plus proéminents de la WWE présentement. Qui est en rémission de la leucémie. On lui souhaite le mieux. Mais il est dans la famille de The Rock.
Ah!
Et son il y a tellement de lutteurs qui viennent de là, qui sont dans la même famille, on peut en compter facilement 15, là. Mais de toutes les générations, c'est incroyable. Mais
la famille Anoa'i.
Exactement.
Mais eux, est-ce qu'ils promouvoient un peu leur coin de pays ou pas?
Ouais,
à travers, dans la lutte?
Ouais.
Ben, il y en a un, Yokozuna, qui interprétait un japonais, donc ça dépend des fois. Mais les Usos, c'est une équipe qui existe présentement, ouais. La WWE, c'est dans leur prise,
c'est
mettons,
connu.
Ils font le Samoa Drop, c'est reconnu, on le sait. Là.
OK. Mm.
Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, les Samoa américaines puis les îles Vierges des États-Unis. Une particularité aussi avec les Samoa américaines, c'est que eux sont, pour des raisons que j'ignore, j'ai cherché, puis la plupart du monde, eux-mêmes, ne savaient pas pourquoi. Là, c'est sûrement des raisons historiques qui datent de l'acte de fondation, puis ça s'explique pas. Mais eux, c'est comme considéré comme encore moins qu'un territoire américain. Dans le fond, c'est que eux, les Samoa américains, ils n'ont même pas la citoyenneté américaine.
Ouais.
Sont comme des résidents américains.
Ouais.
Mais s'ils veulent s'installer, disons, en Californie, il faut qu'ils passent les tests de citoyenneté et tout ça. Ce qui n'est pas vrai, mettons, pour mettons, quelqu'un de Guam ou de Porto Rico. Mettons, si quelqu'un de Porto Rico
vient
s'installer en Floride, il est déjà citoyen américain, okay. Fait que tout va bien. Mais mettons, c'est ça. J'ai regardé sur des sites et tout, puis eux-mêmes me disent « bon, on ne sait pas pourquoi ». C'est comme ça.
Mais s'ils veulent voyager dans le monde, par exemple, s'ils vont au Canada, est-ce qu'ils ont un passeport?
C'est-tu,
ils ont un visa? Il y a une demande.
Je ne sais pas. Ça avait quasiment l'air de dire qu'il n'y avait même pas le passeport. Il y avait comme la résidence américaine, mais ils n'étaient pas considérés comme des citoyens à 100%.
Okay. Ouais, mais on peut utiliser le podcast pour les interpeller. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes de là-bas qui nous écoutent.
Oui.
J'espère qu'on est bien populaire là-bas.
Et le 100e, on le fait chez vous!
Ouais!
une autre région aussi, ça serait le District of Columbia. Le District de Columbia.
Ah, ouais. Ben oui, mais ça, c'est dans les États-Unis en tant que tel.
Oui, ben oui, c'est ça, exactement. Ça, en fait, ça consiste à la ville de Washington, D.C.,
ouais.
Qui est située entre le Maryland et la Virginie, sans faire partie d'aucun des deux États.
Oui.
Étant donné que c'est la capitale, elle fait partie d'aucun État, et elle est donc contrôlée par le Congrès. En gros, les 50 États décident ce qui se passe à Washington, D.C., puis Washington, D.C. a juste rien à dire.
OK.
Donc, tout le monde décide pour toi, mais toi, tu peux rien dire.
Mettons qu'ils veulent construire un nouvel aréna.
Ouais.
Qui décide? C'est toutes les 50?
Ah, ben non,
c'est... Parce qu'ils veulent plus que les Capitals gagnent la Coupe Stanley?
Ah, mon Dieu, c'est une vraie question, mais en tout cas,
oui, puis non, c'est l'humour de ce podcast-là.
Ouais, mais c'est municipal, ça, fait que c'est pas...
Mais ils ont un maire.
Oui, ils ont un maire. Oui, mais mettons toutes les décisions qui normalement reviendraient à l'État.
Genre?
Ben, mettons comme par exemple la légalisation du weed. Ouais, ça peut être un exemple.
OK, donc ça veut dire que les 50 États vont décider s'ils peuvent fumer du cannabis.
À Washington, oui. Mais le monde de Washington ne peut pas rien dire. C'est les autres qui décident pour eux.
Aïe, aïe.
Ouais.
Batista devait pas être content.
Ah ben oui, il vient de là.
Exactement. Luther. Ben, Dave Bautista qui a joué dans Guardians of Galaxy.
Mais oui, exact. Yes.
Et voilà.
Et on s'éloigne, là.
Ben, non.
au début de la Confédération, ça ne dérangeait pas vraiment parce qu'il n'y avait pas tant de monde qui habitait là. C'était vraiment une capitale pour être une capitale. Mais maintenant, il y a beaucoup plus de monde qui habite à un point où la population de Washington, D.C. est plus élevée que la population du Vermont ou du Wyoming.
Oh, wow!
Donc, c'est un peu bizarre de dire que c'est... Les populations du Vermont et du Wyoming ont plus de pouvoir sur ce qui se passe à Washington, D.C. que le monde de Washington, D.C. Même encore aujourd'hui, sur les plaques du District of Columbia, le slogan, tu sais, comme nous, je me souviens, eux, c'est écrit « Taxation without representation ».
Ouais.
Comme les plaques sont revendicatrices du mouvement
punk.
Pour Axe.
Ils sont au punk dans leurs plaques.
Oui. Puis tu peux demander d'avoir comme dit, ben tu sais, moi ça m'intéresse pas, fait que je veux comme l'enlever. Mais à la base, quand tu demandes ta plaque, t'as comme le slogan genre comme stop. Ou maintenant, c'est rendu stop taxation without representation.
Et pas leur devise, mais leur. Oui, c'est ça.
Non, c'est pas leur devise. C'est vraiment juste un slogan qu'ils mettent automatiquement sur les plaques. Quand tu prends ta plaque, c'est déjà gravé dessus, là.
Mais je suis en train de faire des liens dans ma tête. Tu sais, il y a beaucoup de. Les musées à Washington sont très reconnus. Le Smithsonian, le musée du journalisme, le musée des sciences, tout ça. Puis. Aussi, mais j'imagine que c'est tout par l'État américain.
Ouais, c'est géré
donc
par
c'est pour ça que c'est gratuit, c'est pour ça que c'est immense, alors que notamment les musées aux États-Unis, c'est plus privé.
Ouais.
Ah!
Ouais,
et voilà, je viens juste de constater des choses.
Puis pour revenir aux plaques, Ce que je trouve assez ironique, c'est de voir aussi les limousines présidentielles qui sont plaquées de Washington D.C. et qui portent le slogan aussi. Comme je sais que George W. parce que je disais que George W. Bush lui avait fait enlever le slogan, mm-hmm. que mettons en dessous c'était juste écrit, parce que tu peux demander que ce soit juste écrit comme Washington D.C. rien en dessous, mais Barack Obama puis maintenant Donald Trump ne sont pas donné la peine le changer, donc eux roulent sur la limousine présidentielle avec le comme Taxation without representation écrit à l'arrière.
Donald Trump, c'est juste pas ce que ça veut dire.
Probablement. Ben en fait, non, en fait, il s'est prononcé. Il a dit que lui, il a dit que, tu sais, comme oui, il y avait cette plaque-là, mais qu'il s'en foutait un peu. Genre.
C'est ça.
Qu'il y avait pas de position comme lui, c'est que Washington DC devienne un État ou pas, c'était pas important pour lui. Il y a eu un référendum qu'il y a eu en 2016, puis il y a 86% des gens qui ont demandé à ce que le district de Columbia devienne un État. Mais bon, il n'y a pas vraiment de chance que ça se réalise. Là. C'était plus parce que surtout, sachant que le Sénat est contrôlé par les Républicains et que les Républicains sont solidement contre à ce que le district de Colombie devienne un État, parce que ça donnerait deux sénateurs gratuits aux démocrates.
Ah, ben oui.
Fait que, sachant ça, il y a très peu de chances que ça l'arrive. Sinon, il y a d'autres façons aussi de créer un État supplémentaire. C'est en divisant les États qui existent déjà.
Mm-hmm.
Comme par exemple la Californie, où il y a des mouvements qui sont en place ou qui étaient en place pour la diviser en deux, en trois et même en six. Il y a aussi le Colorado qui a eu un homme d'affaires qui a lancé une idée pour de diviser l'État en deux sans trop de succès.
Ben la Caroline.
Ouais, mais ça c'est déjà fait.
C'est déjà fait justement.
Ouais, mais ça date de des lunes et des lunes.
Ben, ça, c'est une autre histoire.
sinon, aussi, il y a la Virginie aussi, puis le Dakota. Sinon, ouais. Si t'es pas capable d'avoir un état de plus chez vous, ben, tu peux aller le chercher chez les autres.
Yes.
Comme par exemple, le Groenland.
Ah.
Ouais, parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les Allemands ont pris possession du Danemark après seulement 6 heures de combat, les États-Unis sont allés prendre le contrôle du Groenland des mains du Danemark pour empêcher l'Allemagne d'en prendre le contrôle. Quand le Danemark a repris son indépendance en 1945, les États-Unis ont offert d'acheter le Groenland pour 100 millions de dollars. Mais le Danemark a dit non, il a refusé. Mais encore récemment, il y a des policiers groenlandais qui se demandent si leur situation financière ne serait pas meilleure en tant qu'État américain plutôt que province du Danemark. Et il y a même des documents de WikiLeaks qui disent que les États-Unis auraient un bon intérêt du côté des États-Unis pour le Groenland, mais peut-être plus surtout pour ses hydrocarbures et ses ressources naturelles. Mmh.
Évidemment.
On va se le dire.
Évidemment. Ouais. Les États-Unis.
Sinon, un petit voisin des États-Unis, il y a Cuba aussi. Hein. Cuba, comme 51e État, rendu là.
Bientôt ou dans le passé?
Ben en fait, on sait qu'après la guerre hispano-américaine, Cuba est devenu un territoire américain pendant à peu près 4-5 ans.
D'où les vieilles autos.
Ouais, et voilà. Il pourrait avoir un mouvement de nostalgie à Cuba, de vouloir réintégrer les États-Unis pour se remémorer de ces belles années-là.
Ouais.
De ces belles années-là, pardon. Et ben on sait que les deux pays ont tellement de belles relations que je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait nuire à une union dans ce genre-là.
Est-ce que c'est du sarcasme?
Un petit peu.
Parce que récemment, le président cubain était en Corée du Nord.
C'est vrai.
Donc, il y a eu...
Lequel? Le nouveau?
Le nouveau, Miguel. Bref, après Raúl Castro, le nouveau dont je me rappelle moins le nom de famille.
Ben, Raúl Castro, il contrôle encore le... Le gros...
Je te laisse ces informations-là.
Ouais.
Je suis pas rendu là. Mais ça a été cette semaine. Et ça l'a permis à Kim Jong-un de faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Ça a été de montrer ses portraits. Plus que normalement, deux portraits... Tu sais, on voit toujours le portrait de son grand-père, de son père, partout. Mais on n'avait jamais vu le sien, sauf maintenant.
Que Kim Jong-un, c'est lui qui peignait. Je pensais que c'est ce que tu voulais dire.
Non, c'est pas comme Hitler.
Il a montré ses œuvres de cours de peinture.
Un petit chat.
Ça, c'est mon aquarelle. Non, mais là, c'est le portrait, son visage. Maintenant, il est immortalisé depuis ce temps-là parce que là, ils l'ont accueilli puis ils ont fait aussi un portrait pour le Miguel pour lui souhaiter la bienvenue. Et voilà.
Ah, Cuba. Bon, parfait. Sinon, on pense aussi à Haïti. Haïti comme 51e État américain. Ouais. Parce qu'on a pu voir à un certain moment sur les chaleureux sites de la droite radicale américaine, depuis le tremblement de terre en 2010, qu'avec toute l'aide et l'argent que les Américains envoient en Haïti, ou si bien juste les annexer, rendus là.
Ça arrivera jamais, je suis désolé.
Ben là, je sais bien que ça arrivera jamais, mais tu sais, comme on s'entend que chez les alt-right, tu peux t'en permettre, ouais, rendu là.
Wow!
Sinon, aussi, Israël et Palestine.
Mon Dieu!
Hein?
Ben oui, il n'y a plus de frontières.
Ben oui, non, mais c'est les États-Unis.
C'est uni.
On entend souvent parler pour le conflit israélo-palestinien. On entend parler de la solution à deux États, de la solution à un État. Récemment, on entend parler de la solution à trois États aussi, comme Gaza, Israël, Cisjordanie. Mais il existe aussi la solution à zéro État. En effet, parce que certains auteurs qui ont proposé pour régler le conflit israélo-palestinien que les États-Unis pourraient simplement annexer Israël et Palestine puis en faire les 51e et 52e États des États-Unis.
Oh, les Palestiniens problème seraient réglé. Contents.
Ben oui,
mais là, ça vient de régler le problème. Tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est gagnant. Ben oui, il n'y a plus de problème.
Moi, je pense qu'il devrait y avoir juste un pays dans le monde.
Les États-Unis?
Non, tout le monde serait juste un pays. Comme il n'y a plus de
frontières. Pas de passeport.
Mais lequel? Hein?
Ça s'appellerait l'arc-en-ciel.
Arc-en-ciel,
on laisse ça dans l'espace.
Moi, je laisse ça comme ça.
Mais oui, on
met
un monde d'espoir.
Puis Jean-François, Jean-Martin Hassan va vouloir se séparer lui avec de ton arc-en-ciel.
Ah, mais non, mais...
Il va prendre juste le bleu.
Dans l'arc-en-ciel, on vit dans le présent.
Wow, hey, tu pourrais... T'es parti pour écrire la Constitution.
Je suis rendu là, Félix.
Puis c'est drôle qu'on parle de ça, justement, parce que, en conclusion, il y a un dernier endroit aussi qui pourrait devenir... bientôt, le 51e État des États-Unis. Et oui, parce que le Québec...
Oh.
Oui, ben oui. Hein?
Yes, we
parce
can.
Je pensais qu'elle l'oubliait, mais...
Non, parce qu'il y a beaucoup qui l'ignorent, mais aux dernières élections provinciales, il y a un nouveau parti, le Parti 51...
Ouais.
Qui proposait l'idée audacieuse d'annexer le Québec aux États-Unis pour en faire le 51e État américain.
Yes, oui, Québec.
Non, mais hey, on serait-tu assez bien aux États-Unis? Fini l'assurance santé. Fini le maudit système métrique. Hein? Fini les congés parentaux. Puis bienvenue au White Castle, au Denise, au mur, au NASCAR et à la NFL. Donc,
même... NFL serait nice. Ouais.
Hein? Donc même
on a un nouveau candidat.
Pour me porter
dans Rosemont dans Gouin. Donc même si le parti a seulement reçu 0,03% des voix aux dernières élections, ben on espère que dans 4 ans, ça va être on va être prêt puis on va l'avoir notre état américain.
Elvis Gratton serait au paradis.
On va l'avoir, notre permis de bière.
Wow, ben, mon Dieu, merci d'Anthony. Merci, Anthony, pour ce beau message d'espoir.
Yeah!
mais, Anthony, tu nous fais rêver avec ça, mais Laurence va nous parler de rêves américains.
Oui.
On n'est jamais dedans.
Non, en c'est dur. Dans la main. Ouais. Elle est dure, cette chanson-là.
Ouais. Très dur.
Pas de parole en plus. Mais oui, je vous parle spécifiquement du rêve hollywoodien. Donc, pour certains, le rêve hollywoodien, c'est devenu simplement une usine à rêves. C'est péjoratif parce que c'est l'endroit où il y a toujours eu des blockbusters depuis que Hollywood existe, en fait.
Tu parles pour louer des cassettes, là.
Oui. Là-bas, ça existe encore. Il paraît que c'est la seule place si tu veux louer Camping Sauvage, Anthony. Il en reste là-bas au blockbuster d'Hollywood.
J'ai vu que vous en avez parlé au dernier épisode aussi.
Oui,
ouais, on commence. Ça commence à être un running gag.
Ça me donne le goût de le voir. Là.
Ouais. Ben, Claude Marc, aussi, sa tante, et louer là ensemble.
Guilla Lepage avec des cheveux longs, moi, ça me manque.
Oui, hein. Ben, fait que c'est ça. Ouais, il y a beaucoup de blockbusters depuis le tout début d'Hollywood. Puis des vedettes. C'est une usine à vedettes aussi. Un peu tous sur le même format. Puis des produits dans le but de faire un maximum de profit, évidemment. Et comment Hollywood nous fait rêver avec ses films?
Propagande.
Avec une belle image.
Bon, ben avec ses réponses très assumées, je vais vous le dire. Donc, c'est en créant du contenu spécifiquement conçu pour susciter les émotions des spectateurs, en les faisant voyager dans des univers parallèles ou en les faisant groover au rythme de la musique, des comédies musicales.
Ah, ben c'est ça, oui. Je l'ai dit, mais tu ne m'as pas laissé le temps.
Tu voulais dire, ouais, je sais, ça fait longtemps que tu veux dire le mot groover.
Oui, entre autres.
Dis-le.
Hein?
Dis-le.
Ah, non, c'est correct.
OK. Mmh. Donc, il y a quelques éléments de synopsis qui se retrouvent dans plusieurs films, vu que y en a plusieurs qui sont faits sur le même modèle. En voulez-vous des exemples?
Ben oui.
Je fais participer, là. Ouh, on lâche pas.
OK, on est actif.
Donc, premier synopsis. Une fille ou un garçon ment à propos de quelque chose et tombe en amour avec une personne. Mais la personne découvre le mensonge en question et rejette le protagoniste principal pour ensuite que tout s'arrange et qu'ils finissent ensemble.
Oh.
Donc, si ça vous dit rien, ça se peut que vous n'ayez jamais vu un film comme ça.
J'ai
ça me dit quelque chose.
C'est quoi ton idée?
Madame Doubtfire?
Entre autres, oui.
Un peu, mais il y a une rupture avant.
Il y a une rupture, il y a un mensonge, il y a une histoire d'amour.
Ouais. Si j'ai bien compris, Titanic?
Non.
Non.
Ben, il y a un mensonge, genre que je reste avec avec le smat non, riche, mais finalement, je t'aime. Pis tout.
La façon qu'elle le dit, c'est comme tu casses avec la personne, puis tu reviens.
Non,
en fait, c'est vraiment... Ben, je vais vous donner des exemples.
Oui.
Donc, il y a Garçon sans honneur, ou Wedding Crashers, avec Owen Wilson et Vince Vaughn. Comment perdre son mec en 10 jours? She's All That, ou version française, elle est trop bien, tout pour elle. En fait, il n'y a aucun des titres qui est bon. L'homme, c'est elle, avec Amanda Bynes.
Ah, ben oui.
Elle se le faisait passer pour un garçon faire du soccer à l'école. Puis finalement, elle est tombée en amour avec Channing Tatum. Puis c'est ça.
Mais qui n'est jamais tombé en amour?
Ben, c'est ce que je veux dire. Mais justement, en parlant de lui, Step Up 3D et 10 choses que je déteste chez toi. Donc, c'est tous des films qui ont gagné des Oscars et qui avaient
Bandit Like Beckham.
Oui, aussi. Oui, mm-hmm. Je pense qu'il y en a vraiment une.
C'est liste. Britannique, ce film-là, je pense.
Ouais, ça m'a...
Oui, mais c'est quand même.
Ouais.
On s'entend que les films hollywoodiens ont beaucoup influencé le reste du monde, dont Bollywood.
Et voilà.
Je pense qu'il y a aussi le film White Bitch.
Ah, White Chick.
Les films que tu regardes le vendredi soir tout seul, on veut pas, ça veut pas dire, regarde pas. OK, là, t'as pas de place ici. White Bitch.
J'étais sûr que ça s'appelait de même en plus. J'étais certain. White Chicks.
White chicks.
Où on avait deux blacks qui se faisaient passer pour deux chicks.
Blanche. Mais est-ce qu'il tombe amoureux là-dedans?
Mais je pense qu'il y a une histoire de...
Sûrement.
Ouais, ouais.
Tout le temps. Bon, ben c'est ça. White Chicks ou Bitch.
White Chicks.
Okay. Donc oui, ça, je dirais que ça compte. Il y en a vraiment beaucoup qui comptent, en fait. Et quand on parle de blockbuster, vous pensez aussi à quel autre type de films qui sont très populaires depuis des années particulièrement? Là?
Des super-héros?
Eh oui, des films de super-héros. Donc, dans les années 40, il y avait beaucoup de bandes dessinées de super-héros qui ont été adaptées en films. C'est les premiers. Mais à cette époque, c'était des films diffusés le samedi à la télévision. Comme les mauvais films comme White Bitch.
Téléfilms.
Ouais.
Ben oui, oui.
Parce que c'était pas au cinéma avant.
Non, c'est ça.
Okay. Attends, mais là, fais-le ta référence, Félix. Là, tu vas te parler des téléfilms de l'ancien compte.
Ben, il y en a eu 6. Ça n'a pas été un grand succès. Bon, OK, ben, tu m'amènes sur un...
Comme vide ton sac, on va pouvoir passer à autre chose.
Là, c'était pas très bon. C'était pas très acclamé par la critique. On a vu Pierre Lambert pendant 2 secondes dans l'univers du Canadien, mais c'est ça.
Oh,
OK, parfait. Dang.
Mais j'allais justement en parler.
Ah!
Non. OK. Donc, je parle des films diffusés le samedi, comme les mauvais films AV ou ATQS, qui nous ont tous déjà accrochés en regardant la télé chez nos parents, un après-midi gris. Oui. Tu sais qu'on n'avait plus vraiment de raison de vivre, on ne savait plus trop c'était quoi nos objectifs.
Moi, TQS, je regardais jamais ça autant que quand j'étais chez mes grands-parents, parce qu'il n'y avait pas Internet.
Ah ben oui. Il y avait 4 postes.
Et voilà.
Ouais. Chez nous, on avait l'ordinateur en sous-sol, il y avait une petite TV à côté, puis je faisais tout le temps jouer la fin de semaine, tout le temps les films de TQS en background. Là.
Ouais.
Fait que, mettons, j'étais sur l'ordinateur, je parlais sur MSN, puis il y avait le film, tu sais, comme Ernest va à la plage qui jouait, ou Weekend at Bernie's, genre.
Des films histoire vécue.
Mm-hmm. Oui, des mères qui survivent avec leurs filles dans des situations atroces. En tout cas, prêtes.
On voit un modèle ici.
Oui, c'est ça.
On salue Andréno.
Des mères, oui. Des mères de ville, des mères d'enfants. Donc, après quelques années, les films de super-héros ont perdu la cote, mais sont revenus en force, on peut le constater
ben,
aujourd'hui, comme on dit. Vraiment, peut-être trop, en fait.
Prenez à revenir, là.
Et voulez-vous un autre exemple de synopsis qui a été beaucoup utilisé dans l'histoire d'Hollywood?
Oui.
Go.
Donc, voici un autre classique. C'est l'histoire d'une jeune fille qui habite en région rurale et qui, après un succès musical, se met à s'intéresser aux amateurs de combats de chiens.
Oh. Yes!
Je sais pas si ça vous dit quelque chose.
Ben, ça me parle... Moi, je pense au podcast.
Ouais. Hey, c'est pas notre premier rodéo, là, Laurence. Hein?
Non, mais il y avait pas d'exemple sur Wikipédia, mais c'est un synopsis que j'ai... j'ai découvert moi-même, en fait, un pattern qui se répète dans les films d'Hollywood, des fois.
Mais un jour, il va y avoir des nouveaux auditeurs qui vont pas comprendre la référence, puis là, ils vont juste penser qu'on parle de combat de chien, mais pour le plaisir, genre, on en fait la promotion, là.
Non, mais c'est les films d'Hollywood, Félix, qui...
OK. On se dégage de tout responsable.
C'est pour ça que Michael Vick... fait des cons.
Oh, ben.
Mais c'est-tu, moi, je suis dans le podcast puis je comprends pas plus la référence. Fait que c'est bien pour dire, hein?
Mais c'était Carmen Campagne qui faisait des combats de chiens, épisode 2.
Ouais. Je sais bien, je suis pas débile.
Bon.
Okay.
On pourrait en faire un film.
Il y a des tensions ici.
Non, ça comme ça. Ouais. Et ben, Hollywood, ça fait rêver tout le monde. Comme j'ai dit, en Inde, ils ont Bollywood, qui est un super gros marché. Puis je pense que même si ils ont une chaîne YouTube, ben, Bollywood.
Ah ouais, un peu.
Pas Bollywood eux-mêmes, là. Oui, exact.
Yes.
Il y a une chaîne YouTube qui vient de l'industrie en Inde qui rafle tous les records d'auditoire, là.
Mais dans le fond, pour l'histoire, ouais, c'est T-Series, je pense que c'est une compagnie qui est comme un peu, on pourrait dire, Warner Brothers.
Ouais, une compagnie de production.
De production cinématographique. Puis là, ils ont commencé à tout mettre leurs vidéos sur YouTube. Puis vu qu'il y a beaucoup d'Indiens, qui sont 1 milliard probablement, quand même, puis qu'ils ont accès à YouTube, ils vont tous s'abonner là-dessus. Puis là, depuis un bout, il y avait PewDiePie, qui était le numéro 1 sur YouTube, avec 68 millions d'abonnés. Puis là, eux autres, T-Series était rendu à 67. Puis là, il a commencé une fausse guerre. Puis il a fait une toune, un diss track, sur T-Series, dans le fond.
PewDiePie a fait ça?
Ouais. Oh, ah, puis c'est tellement... La toune est incroyable. Elle est vraiment drôle. Il met plein de memes à Internet. C'est vraiment beaucoup des jokes à Internet, hein, de memeing and shit.
Oh, mais c'est une compagnie indienne?
Ouais, c'est une compagnie de production, je pense.
Ouais. Ouais, mais tu peux pas dire compagnie, par contre. Vu que c'est en Inde, faut que tu dises une industrie. Bon, sur ça, bonne soirée, tout le monde.
Temple des renommées de la citation.
Merci pour la rectification. J'avais pas compris de quoi il parlait avant qu'il dise.
Ah, ok, voilà.
Compagnie, ça nous a rien.
Mais c'est ça. T-Series, PewDiePie et T-Series ont fait une course aux 69 millions d'abonnés et PewDiePie a gagné.
Oh!
Il a rendu lui le premier qui s'est rendu là. Mais c'est ça encore serré. Là, maintenant, il veut avoir 69. Avoir plein de.
Beaucoup.
C'est quoi ça, 69? C'est encore un autre TD film, ça?
Ouais, là, ton répertoire.
C'est pas moi
là.
Qui dis ça, c'est lui qui l'a dit. Je fais rapporter les news.
Il rapporte les faits, lui, OK?
OK, voilà, c'est le journalisme.
Donc, ben oui, en Inde, ça pogne beaucoup Hollywood.
Ouais.
Mais au Québec aussi, on s'intéresse à ce milieu-là. J'imagine que vous en avez probablement eu vent, mais plusieurs acteurs québécois tentent de vivre le rêve hollywoodien.
Yes.
Oui.
Parmi eux, il y a Karine Vanasse, qu'on a pu voir dans Paname, Revenge, et c'était une infirmière dans X-Men Days of Future Past.
Ah ouais?
Ouais, on l'a vu dans un plan, une scène très courte.
Ok, moi non, mais elle a joué dans des films, mais Paname, étant donné que c'est une série, est-ce qu'on peut quand même parler de l'industrie hollywoodienne? C'est vraiment limité aux films.
En fait, le rêve hollywoodien, c'est aussi rattaché. Oui, c'est les films, les blockbusters, mais il y a aussi comment je pourrais dire ça? L'aura
du végétariat.
Oui, exactement. Ouais.
Mais la télévision, c'est là aussi.
Engendré par des projets populaires auxquels les acteurs participent, puis là, ça les propulse à Hollywood. Donc, c'est ça. Il y a Karine Vanasse, il y a Caroline Davernas, la fille de Madge dans Le cœur à ses raisons.
Celle qui donne des conseils dans le métro.
Oui, effectivement.
C'est-tu ça? Je l'ai su hier, en plus.
Félix en a parlé l'autre jour.
Quand t'en as parlé, que c'était la fille de Michel Delrire?
Ah non, il n'a pas dit que
moi, j'ai parlé que c'était Michel Deslauriers qui faisait la voix dans le métro.
Toi, tu parles que Caroline Lavernas, c'est la...
Oui, okay. Exactement. Oui. Oui. Ah. Oui, je l'ai su hier parce que je regardais un vieux « Tout le monde en parle ».
Ouais.
Puis que c'est ça, c'était Caroline Lavernas et Michel Deslauriers qui étaient invités.
Mais justement, ben, dans Les Beaux Malaises, là, c'est Michel Deslauriers qui joue dedans, qui joue la mère de Martin Matte. Mais quand il joue des scènes que c'était la mère plus jeune, ben c'est Caroline Lavernas qui fait sa propre mère. Ouais.
OK. Ah, j'ai pas écouté Les Beaux Malaises, mais ouais.
Ben, voilà. Elle a joué, entre autres, dans la série Hannibal.
Oui.
Que j'ai écouté et qui était très bonne. Sauf la dernière saison, je sais pas sûre de son personnage, mais ça, c'est autre chose. Il y a Rachel Lefebvre, qui a joué dans Twilight et dans la série Mary Kills People, qui joue en ce moment, aux côtés de Caroline Avernas, qui est le personnage principal.
Elle a aussi joué dans Le Loup-Garou du Campus.
Ben oui.
Ah ouais.
C'était la première dans la première saison. Il y avait... qui a écouté Le Loup-Garou du Campus? Ben, il y avait l'intérêt amoureux de Tommy Dawkins.
C'était elle.
Avant Laurie.
Ouais. Ouais, mais ça, c'est une série canadienne, par contre.
Ouais, tourne à Montréal au studio Mills. Oui, mais... Ouais. Oui, ben, c'est les joueurs aux États-Unis.
Ben,
donc,
elle est partie de là.
Go, Rachel.
Yes. Donc, il y a aussi Evelyne Brochu.
Ah!
Oui, elle a joué notamment dans Rememory avec Anton Yelchin.
Oui.
Lui.
Anton Yelchin, qui est dans Star Trek.
C'est ça.
Les films. Il joue le rôle de Chekhov. Hein.
Qui est décédé il y a 2 ans, peut-être.
Ouais, récemment.
Et il y a Peter Dinklage aussi, qui joue dans Rememory, qui joue Tyrion dans Game of Thrones. Elle a joué aussi dans Le Prodige, un film sur un champion d'échecs, Bobby Fischer, avec Tobey Maguire et Liev Schreiber.
Mm-hmm.
Donc, quand même des grands noms. Côté masculin, François Arnault, qui soit dit en passant, sort avec Evelyne Brochu.
Oh!
Et Potin! Il a joué dans plusieurs films et séries américaines depuis environ 10 ans, qui est installé là-bas. Des fois, il vient à Montréal, il fait des tournages ici. Il a joué dans The Borgias, un des rôles principaux. Et en ce moment, il joue dans Midnight Texas sur les ondes de NBC. Si jamais ça vous intéresse de voir le beau François. Est-ce qu'il y en a qui a écouté The Borgias ici?
Non.
Non, ok, c'est bon.
On regarde juste The Office puis La Lutte.
Ouais, c'est ça. Hein? Lancez compte. Vous écoutez des séries sur YouTube, vous autres.
C'est triste.
Des vieilles séries sur YouTube.
C'est triste, mais c'est tellement accurate, Félix.
Allô, tout le monde.
Il y a aussi la jeune Sophie Nélis qui est plus si jeune que ça.
La vieille Sophie Nélis.
On a pu voir dans le rôle principal de La voleuse de livres.
Mm-hmm.
Vous pensez que c'est en quelle année, ce film-là, qui est sorti?
J'ai pas suivi ça, je suis désolé.
Donc,
2013!
Ah! Ça, j'en ai dit.
Donc, elle avait fait Monsieur Lazare avant, puis c'est là que...
Mais je viens de dire
c'est elle qui joue Monsieur Lazare.
Oui, c'est elle, le monsieur.
Je viens de dire que je sais pas c'est qui.
Oh!
C'est-tu la kid?
Dans quoi?
Mais c'est-tu une petite fille blonde qui
dans La voleuse de livres?
Ouais.
Oui, c'est elle.
OK, mais c'est ça.
Puis là, je termine avec un jeune acteur qui commence à faire sa marque au pays d'Hollywood. C'est Théodore Pellerin, que j'ai vraiment hâte de voir dans Boy Erased. Théodore Pellerin?
Ouais, c'est qui?
Ben, il joue dans... Il a joué dans Med à Vrac TV, aux côtés de...
Dans Med? Merde?
Med, M-E-D.
Ouais, là, t'es film de troisième zone, là.
Enlevez-y son micro, quelqu'un, là.
C'est ça que j'ai compris.
Non, c'est une série avec Mehdi Boussaïdan.
Yes.
Mais Laurence, on pourrait aussi parler des réalisateurs.
Ben oui.
Ah, ben oui.
Ben oui. Mais ça, c'est moins... ben, c'est vraiment impressionnant, on s'entend. Mais quand tu cherches dans l'histoire d'Hollywood, eux, c'est... On s'en fout des réalisateurs. Je sais, ben, je trouve qu'on ressent ça un peu aussi dans les galas. Ils ont plus de reconnaissance maintenant, mais tout ce qu'on voit pas à l'écran, c'est comme un peu... c'est ça, c'est pas mis à l'avant-plan. C'est contradictoire, mais c'est ça. Mais oui, effectivement, les réalisateurs, ils ont fière allure.
Jean-Marc Vallée, je pense.
Denis Villeneuve.
Celui qui a fait Monsieur Lazare.
Ah ouais,
Philippe Falardeau?
Oui.
Ah oui, ah ouais.
Mm-hmm. Ben, c'est ça pour moi. Moi, je voulais finir avec cette petite note de...
D'espoir.
Ben oui.
Hollywood, ce n'est qu'un jet de pierre de Montréal, et voilà.
Oui, puis c'est ça. J'ai hâte de voir Théodore Pellerin. Pour vrai, il est dans une bonne position pour les galas, ou en tout cas, faire sa marque aux États-Unis. Il joue dans le Boy Erased, dans la distribution contre Nicole Kidman puis Russell Crowe.
Ben, let's go, Théodore!
Let's go, Théo!
Ben, merci, Laurence. Et normalement, ben, Gabriel n'est pas là, ça serait la fin. Mais on ne va pas s'arrêter là. On a encore une activité parascolaire, si je peux me permettre.
Oh yeah.
Et c'est un quiz! Ouais, je me rends compte que j'avais pas d'ouverture, donc Anthony, j'ai pris la tienne. Et voilà, donc on va faire un quiz pour vérifier vos connaissances sur nos voisins du sud. Et c'est 10 questions. Oh. 10 questions et en fait, c'est une personne ou un objet ou une ville qui va se décrire et vous devez décider de qui je parle.
Question donc des charades un peu.
Non, c'est pas des charades, c'est la personne va se va se décrire dans ses propres mots à la première personne et vous devez deviner qui parle.
Okay.
Donc, on commence. Je suis une personnalité publique. Ça,
Beyoncé.
Déjà,
non.
Ah. Déjà, c'est assez précis.
Jean-Charles Lajoie?
Mais non, arrêtez-moi ça, là, on parle d'Américain. Là. J'ai les cheveux blonds, j'aime m'habiller en jaune et j'aime partager l'affiche avec Karl Marotte, a.k.a. Pierre Lambert.
Les cheveux jaunes?
Cheveux blonds.
Américain?
Cheveux blonds et j'aime m'habiller en jaune. Et j'aime partager l'affiche avec Karl Marotte.
Uma Thurman dans Kill Bill, mais...
Faux. Droit de réplique.
Ben, c'est le blood de Karl Marotte qui marche pas.
Ah, ben là...
Ouais,
vous avez pas de culture.
Ah, attends. C'est-tu... Attends, c'est-tu genre Pamela Anderson?
Non. Claudie Marc?
Non, parce que Karl Marotte, il a fait des...
J'ai les cheveux blonds, j'aime m'habiller en jaune, les gars.
Mais c'est quoi le rapport avec Karl Marotte, hein?
Il a déjà joué dans un film avec Karl Marotte, c'était les deux vedettes Hulk Hogan en 98.
Et tu veux me dire quel genre de film t'écoutes, toi?
Ben,
J'écoute pas ce genre de film-là,
mais hey, j'ai Hulk Hogan pis Pierre Lambert dans le même film. C'est sûr que je vais prendre...
C'est-tu genre le film de Noël un peu sketchy?
Non, c'est L'Ultime Menace, c'est un film... de violence absolue. C'est un film qui a aucun scénario. Ça a été tourné en 98.
Où ça? Ici ou
aux États-Unis?
Ah, ouais.
Et t'as Pierre Lambert.
Pourquoi
qui
Pierre
est... Ben, c'est Karl Marotte. C'est un acteur... Il a beaucoup travaillé aux États-Unis, Karl Marotte. Et c'est vraiment un film qui a aucun scénario. C'est juste de la violence. Je pense qu'ils ont compté des centaines de morts. T'sais, on voit juste des scènes... Ouais. Pau, un qui meurt, l'autre. Pau. C'est vraiment la guerre cliché. Là. Karl Marotte, c'est comme son body.
Y a-tu une affaire de voyage en temps un peu? Y a-tu Hulk Hogan, c'est un robot?
J'ai pas regardé le film, okay. Mais j'ai regardé les bandes annonces.
C'est correct, c'est Félix.
J'en ai eu assez avec la bande annonce.
Et après ça, tu lui critiques de pas avoir vu le film. Tu l'as même pas vu toi-même. Hein?
Il a dit haut et fort qu'on n'avait pas de culture, gars.
Je me suis intéressé aux faits, mais. On n'a pas regardé tous les films que tu as nommés, Laurence, voyons. Mais c'est dans ma liste de regarder ça. Parce que Hulk Hogan et Pierre Lambert ensemble, je veux voir ça.
Parce que ça me dit quoi, un film de Hulk Hogan un peu sketchy puis violent?
On s'en reparle dans le hors-série. Yes. Donc, deuxième question. Je suis une émission de télévision qui a débuté en 1975. J'ai mis Chevy Chase, Tina Fey, Will Ferrell
SNL.
Et
Mike...
Ouais,
okay. Mike Myers sur la carte et Donald Trump me déteste. Laurence?
Personne ne parle.
Non. Ben, c'est une émission.
SNL?
Ouais. Saturday Night Live. Bravo Laurence, donc 1-0-0. Je suis né en 1967 à Dallas. J'ai écrit la plus importante chanson de l'histoire de la musique et j'aime rénover des maisons.
Il n'y a pas un autre indice?
Non, j'en ai assez donné. La plus grande chanson de l'histoire de la Terre, voyons donc, c'est facile.
Ben là,
j'aurais dit Sir Pat, mais il est pas américain.
Ben c'est ça.
Non.
Le Colocasse.
Je pense à la majorité des chansons qui sont comme
reconnues.
Non, mais mettons, tu me dis genre, tu sais, comme les plus grandes chansons de l'histoire, puis c'est comme juste des Britanniques. Okay, qui me vient en tête tout le temps.
Je vais vous le faire
jouer. J'ai l'impression que si on se fie sur les goûts de Félix, on n'a peut-être pas la même. C'est la meilleure chanson de l'histoire.
C'est la vérité.
Michael Jackson.
Non, OK, je vous la fais. Je vous la fais jouer, là. Vanilla Ice. Ice Baby. Voyons donc, la plus grande chanson de l'histoire.
Puis j'aime rénover. Ah, ben oui, c'est vrai, rénove des maisons.
Il y a une émission depuis 2011 qui rénove des maisons. En fait, c'est quelque chose qui a fait avec tout l'argent qui a amassé avec la chanson. Oui, il y a encore une autre saison qui a été tournée cette année.
C'est certainement pas l'argent qu'il a fait avec le film, en tout cas. On se compte. Le film Cool as Ice. Oh, ouais.
connaissais pas ça.
Mais là, hey, t'as donc pas de culture, toi. Ben,
c'est la chanson que je chante toujours au karaoké. Hey, il y a des tensions ici, là, c'est un affrontement. Là, quand on va parler de lutte, là, mon grand.
Je m'en ai Gabriel, là.
On était-tu bien, là?
Ouais, donc, ben oui, c'est Vanilla Ice, 67 Dallas. C'est mon héros. Et voilà. Ok, là, c'est un peu plus facile, là, je pense. J'ai gagné l'épreuve du décathlon aux Jeux Olympiques de Montréal en 76.
Kylie Jenner.
Caitlyn Jenner.
Moi, je prends pas vos réponses en note, je prends la fin. Mais malgré ma grande popularité acquise à ce moment, on se rappelle de moi pour quelque chose d'autre.
Caitlyn Jenner. Jenner.
Je dirais Bruce Jenner.
C'est Claudie Marc en premier.
Caitlyn Jenner.
Caitlyn Jenner, effectivement. T'as dit Kylie au début.
C'est lui qui a dit Kylie.
Non.
J'ai dit
moi, j'entends les réponses seulement.
Hey, 110%
on va se calmer là.
Rien.
Moi, j'entends les réponses seulement à la fin de ma question parce que ça manque de politesse.
Hey, on est chez nous, hein. On enregistre chez nous, Félix.
Mais les auditeurs s'en foutent, on est sur Internet.
C'est 1 à 1, ça met du suspense.
1-1-0. Donc, Anthony, grande pression. Effectivement, c'est Caitlyn Jenner avant Bruce.
Oui.
Et voilà.
Mais pour moi, ce quiz-là, là, ça tient pas fort. Là. Ça me dérange pas de perdre.
Bon, mauvais perdant.
Ça me dérange pas de perdre.
Donc, prochaine question. J'étais un chanteur quand même assez connu dans le temps que j'étais vivant et mes troubles de sommeil m'ont empêché d'être plongé malgré moi dans la plus grande catastrophe que les États-Unis ont connue dans leur histoire.
J'étais plongeur.
Attends.
J'ai pas parlé de plongeur.
T'as dit plongé.
Mes troubles de sommeil m'ont empêché d'être plongé malgré moi dans la plus grande catastrophe que les États-Unis ont connue dans leur histoire.
C'est quoi la plus grosse catastrophe?
Ça m'étonne que Claudie Marc, tu le sais pas vu qu'on parlait de conspiration, mais c'est vraiment arrivé.
Ok, ça veut dire que ce gars-là, à cause de ses troubles du sommeil, il a jamais su que Jay Leno avait animé tout la chose.
C'est pas John F. Kennedy qui avait des troubles du sommeil?
Non.
Ça n'a pas l'air.
Ok, la catastrophe, c'est les attentats du 11 septembre.
Ah! Oh,
ces troubles du sommeil ont empêché d'être là.
Ah oh, ouais.
Tout le monde?
C'est des Sarotiens.
Mon Dieu. Un pays au grand complet. Vous
oui,
savez pas?
Les Sarotiens.
T'as-tu un autre indice?
Billie Jean n'était pas son
Michael
amoureuse.
Michael Jackson.
Laurence, je t'écoute.
Michael Jackson.
Ben, effectivement, oh, Michael Jackson avait fait un spectacle le 10 septembre 2001 au Madison Square Garden et il y avait un rendez-vous avec pour un deal au World Trade Center le matin, mais il ne s'est pas réveillé.
Oh ouais.
Et il y a eu toute une surprise quand il s'est levé.
C'est une
il y avait une bonne raison de ne pas y aller.
C'est une maudite chance. Il aurait pu être mort aujourd'hui, sinon.
Mais si c'est arrivé, puis ça, je me suis toujours demandé ça, si c'était vraiment arrivé, il aurait été dans les tours à ce moment-là. Qu'est-ce que l'histoire aurait plus retenu?
Mais
ça aurait été quoi la une? Michael Jackson aurait été à quelque part là-dedans. Là.
Mais oui.
Mais oui.
Mais
probablement
je sais pas
que
quel niveau.
Les 1200 autres aussi.
Oui, mais je me demande, mettons, dans un journal,
oui,
ça aurait été genre, genre les attentats tactiles, puis genre dans la colonne de droite, by the way, il était là.
Ouais.
Bref, c'est on ne saura jamais.
En fait, tu parles de ça, puis même je suis surpris à quel point qu'il n'y a pas eu genre de grosses personnalités connues qui ont été victimes là-dedans. Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes, puis c'était en plein centre-ville de New York, ça aurait facilement pu avoir des...
Parce qu'ils ont été avertis.
Ah, ben oui, c'est vrai.
Notre responsable.
Il fallait qu'il pète la tour 7, fait qu'il fallait pas qu'il soit proche.
Mais le plus loin qu'on a été dans les personnalités publiques, c'était une animatrice de télévision à NBC qui était dans l'avion qui est rentré dans le Pentagone.
Ah ouais.
Okay. Ouais. Sinon, il y a des personnalités style... Ben, il y avait le recruteur, le chef des recruteurs des Kings de Los Angeles.
Ouais, les deux dépisteurs des Kings. Ouais.
Effectivement. Ouais. Donc, maintenant, on va y aller dans un peu plus léger. Je suis une application de rencontre.
Tinder.
Laurence, là, moins 3 points. Non, qui se veut féministe. Une application de rencontre qui se veut féministe. Qui a été fondée à Austin, au Texas. Ma créatrice avait d'ailleurs cofondé Tinder pour ensuite quitter l'entreprise en la poursuivant pour harcèlement sexuel.
Je vais dire Bumble.
Anthony, Bumble, effectivement. Ah ouais. On parle de Whitney Wolf Heard, qui a créé Bumble. Bumble est la quatrième application la plus utilisée. Il fait partie du groupe Badoo. Donc, il y a autant Badoo que Bumble. Mais Tinder, c'est toujours en premier.
Puis pourquoi c'est féministe?
Vas-y, Laurence.
C'est les femmes qui écrivent en premier aux hommes.
Oui, exactement. Oui.
Faut que la femme t'écrive avant que tu puisses entamer une conversation, sinon tu peux pas y parler.
C'est comme Tinder. La seule différence, c'est que quand t'es un gars, tu peux pas écrire tant que que la fille t'a pas écrit en premier.
Mais ça, tu peux pas non plus. Ben, ok, s'il y a un match. Ok.
Ouais.
Ouais, Tinder, ouais. Faut qu'il y a un match.
C'est la même chose
que y a un match entre les deux, il faut que t'attendes que la fille parle en premier.
Ok.
Et voilà. Donc, en passant, c'est 1-1-1, donc c'est très serré.
Oh.
J'ai déjà été dans un groupe de musique punk, mais j'ai surtout passé très près de gagner le poste de sénateur du Texas mardi dernier, et plusieurs personnes aimeraient que je me présente aux présidentielles de 2020.
Ben, c'est Monsieur O'Rourke.
Mickey O'Rourke?
Beto O'Rourke?
Beto O'Rourke, effectivement. Qui, oh ouais.
Ben, je vais dans
qui...
quel groupe?
Ben, je ne me rappelle plus.
Je savais même pas qu'il était dans un band, je savais juste qu'il était candidat.
Effectivement, mais en fait, ça a été le candidat démocrate pour le poste de sénateur au Texas, démocrate. Et d'habitude, les démocrates au Texas n'ont pas des gros pointages, mais il a été très proche de déloger Ted Cruz.
Ouais.
Donc, ça, il y avait un beau mouvement là. Il y avait des médias de partout dans le monde qui le suivaient. Donc, il y a plusieurs personnes qui pensent... il y a beaucoup de gens qui ne pensaient pas que les démocrates allaient faire un pointage aussi élevé là. Donc, il est pressenti pour peut-être représenter les démocrates en 2020.
Mais il a peut-être failli se faire tuer par le père de Ted.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Effectivement, dangereux. Donc, Anthony, tu prends l'avance. 2-1. Donc, une autre question. J'aime rouler vite sur l'autoroute et ne pas dire nécessairement la vérité.
Lying Ted? Ted Cruz?
Non.
Paul Walker.
Laurence. Mais non.
Ah, elle est bonne.
Donald Trump?
Pardon?
Donald Trump? Mais peut-être.
Mais non. O.J. Simpson?
Ah, oui.
Ben il a fait d'autres choses que conduire vite, mais non, effectivement, mais... ça... Non,
c'est...
ça... C'est
moi qui décide, c'est moi qui pose les questions.
Correct.
Non, mais il a été acquitté, là, fait que ça va mêler, là. Moi,
il
je
l'a pas fait.
Que...
Été.
Oui.
Ah non, mais il l'a pas fait, mais il a donné une interview où je pense qu'il avait écrit un livre ou les deux.
Ouais.
S'il l'avait fait, qu'est-ce qu'il aurait pu faire?
Il a écrit un livre, puis le livre, ça a écrit comme « If I did it », puis le « if » est écrit tout petit... Comme il t'écrit dans le. Comme il écrit
pourquoi
tout
il a fait ça?
Et dans le fond, tu vois, quand tu vois aller, tu vois I did it. Puis comme quand tu vois proche, tu dis OK, if I did it. Hein.
Ouais,
mais tu sais, il n'a rien fait. Là.
Ouais.
Mais il a perdu en. Ça, il a été acquitté en poursuite, comment on dit ça, pénale, ça. Puis en civil, il a été accusé. Déclaré coupable. Fait qu'il a payé la famille, la victime, mais il n'a pas fait de prison.
En passant dans mes recherches, savez-vous, c'était qui son avocat?
Bruce Jenner.
Pas loin.
Ah.
Pas loin.
Attends,
c'est
Kardashian.
Le père de Kardashian. Mais oui, Bruce Jenner.
Parce que moi, je pensais que Bruce Jenner était le père de Kardashian. Mais finalement, j'ai fait tous les liens. Comme, oh!
Oui, puis dans la série, il y a une série sur O.J. Simpson récemment. Il y a vraiment des actrices qui incarnent les rôles des Kardashian quand ils étaient jeunes parce qu'elle est à la cour.
Ah
ouais. Ben, fuck
it. Wow, Laurent, spécialiste de justice américaine.
Mais Kardashian, c'était probablement l'avocat le plus en demande aux États-Unis.
Mais surtout après ça. Ben, peut-être avant aussi.
C'était
peut-être.
La Anne-France Goldwater des États-Unis.
Puis, il y a une petite parenthèse. Dans un épisode de South Park, ils ont parlé de ça. Puis, ils ont fait. Parce qu'il y avait. Une tactique des avocats, souvent, c'est de parler de quoi d'autre qui n'a pas rapport pour faire penser au jury, genre, oh shit, ok, ouais, ça. Tu sais, faire comme A plus. L'avocat, il dit A plus B égale C. Donc, dans mon cas-ci, ça égale ça. Puis, dans South Park, ils ont appelé ça la théorie Chewbacca.
Ok.
Pour, en disant que, ouais, tu sais, Chewbacca, dans le fond, tu sais, il était sur une planète de Ewok, puis, tu sais, il est beaucoup trop grand, là, ça n'a aucun sens.
Effectivement.
Puis là, à cause de ça, vous comprenez que. O.J. Simpson, ça peut pas être lui le tueur. Puis genre, mais c'est la défense du backup. En tout cas, c'est de faire une diversion tellement absurde que tu perds le monde. Puis avant cet épisode-là des Simpsons, de South Park, les avocats, il n'y avait pas un nom pour cette tactique-là. Puis depuis ce temps-là, ça s'appelle la défense de Chewbacca.
Wow.
Ah, c'est resté le nom?
Ouais, ouais.
Ah,
dans les écoles de loi, il n'y a personne de même.
Yeah, on parle de Star Wars dans les écoles de droit, c'est fantastique.
Yes!
Genre, on parle surtout de South Park, surtout.
Ah, c'est South Park et compagnie. Avant-dernière question.
On va remonter ça.
Donc, Anthony, 2-1-1. J'ai été une ville conquise par les États-Unis en 1775, mais peut-être ont-ils choqué de par notre température et les nids de poules?
Montréal.
Anthony, Montréal?
Non, ouais.
Bonne réponse. On a déjà été une ville américaine. Peut-être on aurait été le 51e État.
Ouais.
Mais... Ah, bientôt.
Mais juste la ville de Montréal.
Ben, on va dire c'est l'ensemble. Ben non, non, il était pas à Québec. Donc, ça aurait été séparé en deux, imagine.
C'est ça.
Les Canadiens nordiques, ça aurait été un niveau que c'est dans un autre pays.
Il paraît qu'ils ont voulu se rendre à Québec, mais parce qu'il n'y a pas de troisième lien, c'était juste trop, il y avait trop de trafic, et qu'ils ont dit juste laisser faire.
Ils auraient été à Trois-Rivières. Mais en fait, c'était en marge de leur guerre d'indépendance. Ils essaient de se trouver des appuis au, pas la Nouvelle-France, mais dans le Bas-Canada. C'était quoi déjà qu'on aimait
Bas-Canada,
ça? Dans le Bas-Canada? Oui,
je n'étais pas là.
En quelle année déjà?
1775.
On avait perdu quand on était dans
l'anglais. Ça faisait pas longtemps qu'on venait d'avoir les plaines d'Abraham, là.
Ouais,
donc, on était une colonie britannique.
Ouais.
Bref, mais les gens voulaient, les Américains voulaient essayer d'être qu'on soit de leur côté en prenant, en nous disant, ben regardez comment les Anglais vous traitent. Mais les Anglais, au début, n'étaient pas nécessairement très violents avec nous. Il n'y a pas nécessairement eu. Ça dépendait des années, mais c'était une occupation assez pacifique. Il n'y a pas eu personne dans le troupe. Fait que donc, d'envoyer des troupes aux États-Unis pour une guerre qui n'est pas la nôtre, ben il n'y a pas eu d'appui dans la population. Fait que les Américains ont laissé faire. Ils ont dit aux Anglais, ben regardez, Montréal, c'est à vous, on se mêle de nos affaires.
Ouais, ça, parce que dans le fond, on était mieux traités que les gens de la Nouvelle-Angleterre. Là,
exactement.
Ceux qui voulaient se séparer.
Et voilà. Donc, dernière question, ben là, c'est pour départager la deuxième place. Là. C'est pour la médaille d'argent. J'ai fondé la compagnie THX, qui se spécialise dans la restauration de pistes audio et vidéo, mais j'ai aussi réalisé quelques petits films par la bande.
Steven Spielberg.
Non.
Oh, c'est un nom, gros nom de même, je pense.
Et que c'est spécial que Gab soit pas là.
Parce qu'il est canadien. Kubrick?
Non.
C'est quoi, George Lucas?
Claude Dumarc, bonne réponse!
Oh, ben, tabarniche!
Dans les années 80, entre les premiers Star Wars réalisés et ceux qui s'en venaient dans les années 90, George Lucas cherchait des projets à faire, donc il a fondé une compagnie pour restaurer les bandes vidéo et audio. J'ai l'air d'un spécialiste, mais j'ai regardé ça hier, mais j'imagine que Feu Gabriel aurait pu donner plus d'informations à cet effet. Donc, médaille d'or sur les États-Unis, Anthony, Claude Dumarc et Laurence, bravo pour la participation.
Merci.
Et voilà, donc c'était tout pour mon quiz. Est-ce qu'on partage d'autres choses de votre côté?
Je veux revenir encore sur Red Dead 2 Redemption.
Ah mon Dieu, la saga!
C'est vrai qu'on n'avait pas eu ton retour.
C'est vraiment bon. Là. C'est moins... Dans le marketing, ils montraient ça quasiment qu'il fallait que tu bouffes à chaque jour, fallait que tu dormes autant.
Mais t'es pas un Sims non plus. Là.
Moi, c'est ça. Mais ben, t'es poche. Parce que là, je bouffe rarement dans le jeu. Comme dans la vraie vie. Puis, tu sais, mon bonhomme, c'est juste écrit qu'il est, underweight. Genre, il est maigre. Puis, on le voit quand il prend son bain, il est maigre. Puis, mais ça me fait courir plus vite, mais j'ai plus mal facilement.
OK.
Fait que...
Mais c'est fou à quel point ce jeu-là suscite des réactions passionnées. Parce que moi, j'ai appris ça grâce à toi. Je savais pas c'était quoi avant. Et à chaque fois que j'en parle, il y a un jeu sur là que c'est populaire. Tout le monde est comme... Mais tu comprends pas à quel point c'est cool.
C'est ça, parce que c'est prenant. Puis, genre, l'histoire, sincèrement, c'est un des jeux que l'histoire est la plus longue que j'ai vu. Mais aussi, j'en profite pour faire toutes les missions de côté, les side missions. Je sais pas comment dire ça en français. Les missions secondaires. Puis, l'histoire est bonne parce que. Mais le jeu est long aussi parce que t'es à cheval quand même. Puis la carte est grosse. Mais pendant que tu promènes à cheval, tu parles avec les autres personnages de ta gang. Fait que l'histoire se développe de même par les dialogues entre membres de gang. Puis c'est vraiment bien fait. Puis il y a des... sans dire trop de spoilers, des fois, il y a des parties. Puis c'est la meilleure représentation de party que j'ai vu dans des jeux. Parce que là, la façon que tu vois...
Plus que The Sims?
Parce que... D'après moi, la façon qu'ils ont filmé ça avec des capteurs 3D, c'est qu'ils ont fait vraiment le party. Ah. Parce que t'as des gangs, tu peux aller voir, il y a du monde qui autour du feu qui chante, t'as du monde qui boit à côté, qui vont prendre une caisse de bière, t'as l'alcoolé qui se promène croche. Puis d'après moi, ils ont pris une grande salle, ils ont fait comme du théâtre, ils ont fait un party, puis après ils ont filmé.
Getting wild.
Ouais, c'est ça, puis parce que c'est vraiment comme un vrai party dans la vie. Là. Si tu veux aller chanter avec le monde, tu vas là. Si tu veux aller t'ostiner. Si tu vas aller écouter deux gars qui s'engueulaient par rapport.
Parler du bar noir puis t'ostiner dans un coin.
Exactement. En tout cas, ils ont été tous des petits détails de même qui ont vraiment bien fait ça. Fait que. Excellent jeu.
Mais génial, Claudie Marc. Laurence.
Ben moi, je vous parle du pacte pour la transition.
Ah oui, oui.
Ah oui.
Ça, c'est très
oui,
important. Oui, oui. Récemment, vous en avez entendu parler.
Oui, ouais, oui. Ben là, je suis en train de guérir, là, parce que là, ça saignait encore un peu.
Le
pacte, j'ai fait ça avec mon frère.
Le célèbre
pour,
Wolf Pack, dont je parle souvent. Yes. Ouais. Donc, le pacte pour la transition, c'est en fait un... Ben, c'est un pacte, oui. Non, mais j'essaie de trouver un autre mot, mais... C'est ça. C'est un pacte. C'est un engagement.
Un engagement, oui.
Pour la population, monsieur, madame, tout le monde, mais aussi pour les entreprises, les gros pollueurs qui...
Ah, OK,
oui. Oui, c'est pour l'environnement. Donc, c'est un engagement solennel pour que tous contribuent à réduire l'empreinte écologique. Donc, il y a vraiment des sections sur le site Internet, une section pour le pétrole, comment dans notre quotidien on peut faire pour réduire notre consommation, l'alimentation, la consommation, bref, tous des trucs comme ça. Mais il y a une section aussi vraiment pour le gouvernement, pour les entreprises, des demandes envers eux pour qu'eux fassent de même. C'est que oui, nous, on est la population, on a notre devoir, mais... Eux aussi ont leur grosse part du gâteau. Donc, c'est vraiment mis en branle pour qu'il se passe de quoi de concrètement, qu'on n'attende pas juste après les instances politiques pour partir un mouvement environnemental, mais que ça vienne de nous.
Donc, ça, c'est par l'homme de théâtre Dominique Champagne.
Oui,
et
entre autres.
J'ai signé le pacte et j'ai moi regardé aussi. Le site Internet. Et une chose que je trouve intéressante, c'est que c'est pas nécessairement... signez ça si vous voulez un meilleur environnement. C'est...
Non.
Ça propose des mesures, ça donne des conseils, donc
exact.
C'est applicable. Donc, je disais ça, j'étais comme « Ah, mais oui, je pourrais y penser à faire ça. »
Ouais,
donc,
c'est vraiment
c'est
pas
pédagogique,
juste,
c'est très cool.
C'est vraiment pas juste, on a besoin de ta signature pour t'envoyer des mails sur la situation d'un...
C'est un engagement.
Ouais, c'est ça, c'est un engagement, c'est une façon, ben, comme ils disent, de passer de la parole aux actes, donc de créer un mouvement commun pour se donner la motivation de faire un changement concret pour vrai, là.
Oui. C'est Dominique Champagne, mais je vois aussi souvent sur les publications, il y a Yvon Deschamps et Jeannette Bertrand. Est-ce qu'ils sont porte-parole ou sont impliqués aussi?
Ils sont impliqués.
Ouais,
il y avait, lors
Louis
du dévoilement,
Morissette,
il y avait
aussi.
Plusieurs personnels publics, justement aussi avec Véronique Loutier.
Oui.
Et est-ce que je peux juste exprimer ma frustration à partir de quelque chose? Oui, merci. OK. Donc là, il y avait effectivement Louis Morissette et Véronique Loutier qui disaient « Bon, on va faire c'est très important, on va faire notre part, effectivement. » Puis là, il y a des petits coquins sur Twitter, menés par une certaine Bianca Lompré, son branding, c'est la mère pas parfaite, la mère imparfaite.
Ouais.
Bref, la conjointe de François Mascotte. Et sur Twitter, disons qu'elle est un peu virulente, pour ne pas dire fatigante. Et elle a relevé le fait que Louis Morissette et Véronique Loutier, pour faire leur spectacle des Morissettes, se déplaçaient au Québec avec un avion privé. Puis ça a l'air que ça pollue, puis que c'est pas important. Mais tu sais, parce que sa manière qu'elle s'exprime sur Twitter, c'est pas nécessairement en criant haut et fort, mais c'est juste en, tu sais, par exemple, en likant les tweets qui font référence à ça, ou juste dire « Ah, oh, ben, vu comme ça, hein, on sait bien.
Hein? » Donald là, Trump style.
Non, Donald Trump, c'est plus violent. Puis elle, c'est plus « Ouais, ouais, on voit ça, hein, trois petits points. »
En tout cas...
Genre, effectivement. Puis là, Louis Morissette et Véronique Loutier, ils ont répondu « Ben, on n'est pas parfait, mais on veut faire des efforts, puis on a été sensibilisés avec le temps, ce qui est très noble, et c'est à ça que ça sert. Faut pas que tu te rentres dedans dans les gens qui s'engagent à faire des efforts en disant « Ouais, mais tu sais, il y a trois ans, est-ce que tu niaiseux? » Donc, j'ai vraiment...
C'est ça, à partir de maintenant, OK, bon...
Ouais. Puis Véronique Loutier a dit ouais, mais j'ai regardé qu'est-ce que j'ai fait. Je savais que je faisais des efforts dans le temps, mais je m'engage à faire plus d'efforts. Et c'est ça que le pacte encourage.
C'est ça l'important.
Donc, les petites réactions sur Twitter, genre ouais, mais tiens, vous êtes là. Et là, on va se calmer.
On se les garde.
Mais voilà.
C'est vraiment, par exemple, un argument que je trouve que la droite utilise souvent.
Oui.
Comme aujourd'hui, j'écoutais à la radio, puis t'es Luc Lavoie, qui était à la radio au 85
FM.
Puis j'aime ça l'écouter pour la rire.
Ouais.
Puis c'est exactement le même argument que la gauche avait pas le droit de faire des leçons quand ils ont des VUS qui font des tournées, qui gaspillent d'avant.
Hey.
Vous allez pas me dire qu'est-ce qu'on mange. Mais ça, c'est
un discours... Non, la personne qui est sûrement pas le plus grand écologiste de la Terre, ouais, on va se calmer.
C'est un discours des gens de droite que pour annuler...
certains gens de droite.
Ben,
je suis pas de droite, là, mais je veux dire...
Ben, beaucoup, le monde de droite, souvent, pour annuler le discours écologiste, c'est « Ah, vous savez, vous êtes aussi pire que nous
autres. » Ouais, c'est juste pour faire semblant, c'est juste une game que vous jouez, là.
Pour se sentir mieux, là.
Ouais, ben ouais, mais aussi pour... passer bien, c'est ça que les gens de droite disent.
Moi, au moins, je suis honnête, moi, au moins, je fais pas d'efforts, mais je m'en fous.
Oui, c'est ça. Exactement.
Oui. Donc,
je vous invite à signer.
Le pack.ca?
Pack.ca? Oui, exactement.
Ou le pack dans Google. Puis...
Le pack.ca. Ce n'est pas n'importe quel pack, par exemple, on va mentionner. Là. Lisez ce qui est écrit.
Faites attention au pack de sang.
C'est ça.
Anthony?
J'ai reçu mon... Je suis abonné au magazine Voir. Puis j'ai reçu mon magazine aujourd'hui. Puis en feuilletant, à la fin, ça dit, mettons, il y a la section quoi faire, puis ça dit les événements qui s'en viennent. Puis j'avais vu justement qu'il y avait un spectacle de Girafage et de Ryan Hemsworth au Théâtre Fairmount. Donc je me dis, ah ben tu sais,
Ryan Hemsworth?
Ouais, qui est
c'est un acteur.
Pas Liam Hemsworth.
Ouais, pas Liam. Ryan Hemsworth, c'est un artiste néo-écossais. Okay. Et qui est en show, puis c'est Hemsworth, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais j'ai vu que le spectacle s'est passé, en fait, c'est le 2 novembre. Ah. Donc, en fait, mon message se transforme en un message pour les gens qui publient Le Voir. S'il vous plaît, faites quand vous mettez pas des événements qui se passent après. Ben, en fait, étant donné que c'est le magazine du mois de novembre, mais s'il vous plaît, commencez à mettre les événements peut-être à partir du 15, parce que, comme ça, j'aurais bien aimé, mais bon, malheureusement, c'est passé.
Donc, les auditeurs, vous l'apprenez à l'instant, mais ça a été une des premières choses qu'Anthony nous a dit quand il est entré.
En
ici, c'est comme, hey, vous savez pas ce qui s'est passé dans le magazine Voir, là, je voulais voir un spectacle, puis là, je peux plus, Colin.
Puis j'ai garoché ma revue à bout de bras à travers la cuisine, Laurence.
Ouais.
Il y a 3 verres de casse.
Ramasse-moi ça. Bon, sur ces blagues un peu malsaines. Mais c'est juste l'amitié, Laurence, tu le sais.
Ah, mais t'as pas fini ta phrase. J'aimerais ça savoir ce que tu voulais dire, Félix.
Donc, on vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux. @magique le mot. Et aussi, nous suivre sur notre site internet où tous nos épisodes sont répertoriés, le momagique.fun. Et vous pouvez nous suivre sur iTunes, Spotify et bientôt Skyrock, ça s'en vient. Donc, je m'appelle Félix Bernier, merci et à la semaine prochaine!